lights out, and away we go. Rosberg gets away quickly. Ricciardo pulls out alongside Massa. They touch wheels as Ricciardo forces his way in. Hamilton's got the inside line in the turn one. Rosberg will try and stay ahead. It's neck and neck with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg's lost another place as Sebastian Vettel comes through the Ferrari.
Bonsoir et bienvenue dans le 28e épisode de la 9e saison du service après-vente de la F1 qui reviendra ce soir sur la course du Grand Prix de Hongrie 2016 de Formule 1. Après deux éditions mouvementées et épiques, le circuit du Hungaroring s'est sans doute dit qu'il fallait savoir s'arrêter à temps pour ne pas devenir une machine à plaisir incontrôlable et nous a offert un bon vieux Grand Prix des familles qui n'a pas troublé notre digestion. Mais vous nous connaissez, c'est pas parce que la course a été calme, et je pèse mes mots, que nous ne saurons pas quoi dire. Alors sans plus attendre, voici mes acolytes pour ce soir, car évidemment, et par chance, je ne serai pas seul. Tout d'abord, s'il était un Pokémon, il serait pas d'accord. Le Pokémon dont l'attaque principale est la contradiction, et qui vit dans les contrées lointaines de l'Australie, c'est Bilo. Bonsoir Bilo.
Enfoiré. Bonsoir à tous.
Ça a été un plaisir. S'il était un Pokémon, il serait Realizatong. Le Pokémon dont l'attaque principale est montage rapide, et je parle bien évidemment des émissions, hein, bande de petits coquins, c'est Buchor. Bonsoir Buchor.
Bonsoir.
S'il était un Pokémon, il serait Daniel Selmayr. Le Pokémon dont l'attaque principale est, tu l'as vu, ma belle casquette Ricciardo, bordel à NBA, c'est nimpe ce qui se passe en ce moment, c'est Jassem. Bonsoir Jassem.
Wow, quelle présentation là, j'en suis retourné.
C'est le but.
Bonsoir.
Messieurs, comment ça va?
Ça va très bien.
Bon. Ben ça, oui, va. Ça va. Ça, ça va.
Moins d'accord. Bien après ton intro, quand même.
Hein?
Moins bien après ta présentation.
Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, on n'est pas toujours inspiré. Hein. Messieurs, alors je vous propose, on va bien sûr parler du Grand Prix, mais c'était un Grand Prix tellement incroyable qu'on va peut-être vraiment le garder pour la toute fin. Et je vous propose d'abord de commencer un petit peu par de l'actu. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission d'actu, ça s'y prête pas toujours. Il se trouve que parfois il y a des enchaînements et c'est vrai que ce week-end on a été gâtés de ce côté-là. Alors, je vais éviter d'aborder des sujets qui pourraient prêter à débat plus tard dans l'émission. Je vais commencer, je vais vous évoquer deux sujets qui sont en lien avec des réunions qu'il va y avoir cette semaine, notamment le groupe stratégique de la F1. Deux points principaux à retenir. D'abord, il y aura un vote pour l'introduction du Halo en 2017. On savait que c'était un petit peu en balance, hein, parce que la FIA pourrait très bien décider de l'introduire de force, puisque ça fait partie de ses prérogatives. Hein. La sécurité, c'est un des rares domaines dans lesquels la FIA peut agir sans l'aval des acteurs habituels. Mais finalement, on se rend bien compte qu'on se dirige vers un vote, et ce vote d'abord va y avoir débat en groupe stratégique, puis après, du groupe stratégique vers la commission F1. Et vous n'êtes pas sans savoir que au stade auquel on est dans l'année, pour que le Halo soit introduit en 2017, il faut qu'il ait l'unanimité en commission F1. Or, on sait déjà que Red Bull est plutôt contre et n'hésitera pas à bloquer si elle estime devoir le faire. Donc, messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez logique que ce dispositif de sécurité passe par l'assentiment de l'unanimité des participants de la commission F1?
Non.
Oui.
Un peu comme toutes les nouveautés apportées en F1, donc rien ne change de ce point de vue-là. Hein. Et de toute façon, il sera pas introduit, le Halo, ça m'étonnerait beaucoup. Bon.
Eh bien, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jessam, mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense qu'il va être introduit, que la FIA conserve le cheminement standard pour introduire des nouveautés, mais ils font du lobbying pour convaincre les gens de voter pour. On a vu qu'ils ont fait, d'ailleurs je crois qu'on n'en a pas parlé samedi, une réunion importante de présentation aux pilotes du Halo, des cas où ça aurait pu aider, en étant clair que ça va pas protéger de tout, c'est pas la solution miracle, et c'est pas non plus l'objectif. Et ils ont quand même réussi à convaincre un fervent anti-Halo qui est Lewis Hamilton et qui a dit, ils m'ont convaincu, quoi. Donc c'est toujours moche, ça reste moche, mais pour la sécurité, je suis pour.
C'est vrai que tu parles de la présentation, elle a visiblement fait forte impression auprès de beaucoup de pilotes.
Ouais.
Et... Ils peuvent pas la faire la même pour les réductions des coûts ou...
Ah ben non, celle-là, ils essayent de la faire depuis 10 ans. Elle est toujours au stade de page blanche.
Dans la présentation, ils ont expliqué quels étaient les accidents du passé dans lesquels le halo aurait vraiment aidé. Et par contre, ils ont quand même précisé les accidents dans lesquels le halo n'aurait pas pu empêcher un drame, comme je crois c'est le cas de Justin Wilson.
Le cas de Massa, voilà.
Ils ont parlé du Massa en disant que ça aurait pas fait, pouvoir faire grand chose. Il y a aussi le cas de Surtees aussi, ouais. Surtees aussi, je crois.
Mais voilà. C'est ancien quand même. Hein. C'est les Formule 1, c'était pas du tout les mêmes, donc bon.
Ouais, sauf que là, il parle. Non, le fils de Surtees.
Oui, Surtees, le
2009.
Qui est décédé. Le truc, oui. Voilà, c'est que ils se sont pas limités surtout à la F1. Ils ont pris les monoplaces. Parce que le but, c'est aussi, c'est pas de l'introduire que en F1. Donc.
Moi, j'ai toujours préféré l'aéroscreen de Red Bull parce que, tout d'abord, c'est pas ouvert sur le, il y a pas de trou en fait dans la protection. C'est vraiment une visière qui protège au moins le devant de, enfin, en tout cas la vue du pilote, on pourrait dire comme ça. Et il y a pas cette barre au milieu au moins qui pourrait quand même gêner, parce que je reste persuadé que ça gêne la visibilité du pilote. La grosse barre au milieu. Donc c'est pour ça que j'aurais préféré l'aéroscreen. Mais je pense pas que si le halo n'est pas voté à l'unanimité, il ne sera pas remplacé par autre chose. Donc je suis partagé.
L'aéroscreen, j'y crois, je pense que ça sera un jour en Formule 1, mais dans plusieurs années. Pas une bonne idée, enfin pas certain que ce soit très très utile en Formule 1, parce que nos Formule 1 sont peu sûrs en fait. Donc techniquement, oui, on a dû chercher justement Bouchard, on a dû chercher d'autres sports pour montrer des cas. Ça prouve bien que la Formule 1 n'a pas eu d'accident de ce genre en fait. Donc au final, je pense que la Formule 1 est le sport.
Non, c'est pas du tout ça.
C'est plus safe en fait.
Non, attends, il y a un argument que tu m'avances que je suis obligé de te contredire, c'est-à-dire qu'ils se sont pas limités, quand je dis, ils ont pas cherché en dehors de la F1, c'est-à-dire qu'ils ont pris des accidents de la F1 apparemment, mais d'autres accidents de monoplace, en disant voilà l'intérêt du halo dans toutes les catégories de monoplace.
Ils ont pris quelqu'un en F1, qui datent des années 70, après, 80, 90.
Le problème c'est ça, c'est qu'on a aucune information complète sur la présentation, donc je t'avoue que effectivement, ça reste à prendre avec précaution ce que je dis.
Sur ces 20 dernières années, on va dire ces 15 dernières années, il n'y a pas eu d'accident particulier où le halo aurait été efficace. D'ailleurs, il y a eu l'exemple de l'accident de Massa. Il n'aurait pas servi à grand-chose.
Ouais, mais le problème, c'est
franchement, le halo, j'ai aucune énergie. Pour moi, il n'a aucun intérêt. Enfin,
toi, tu ne le veux pas, de toute façon. Ça, c'est clair, mais...
Je me pose vraiment la question, parce que le halo, je trouve quand même qu'il peut être efficace en certaines occasions, mais moins que l'aéroscreen. Alors après, mieux vaut-il quand même choisir le halo tout de suite en attendant l'aéroscreen, parce que s'il n'y a pas un vote à l'unanimité pour le halo et que c'est remplacé par rien, ce serait dommage. Le halo a quand même des effets positifs, même si je trouve que c'est moins que l'aéroscreen.
Moi, je serais plutôt partant pour vraiment travailler sur l'aéroscreen, c'est-à-dire comment, en ce qui concerne la pluie, etc., et laisser le halo de côté plutôt que de se concentrer sur du halo, quoi. Autant se concentrer sur des choses qui seraient vraiment efficaces pour la sécurité. Et moi, je suis pas forcément contre l'aéroscreen, hein. C'est le halo le problème pour moi. Donc, il n'apporte pas une vraie plus-value sur la sécurité en Formule 1.
Mais après, si le halo est choisi à l'unanimité, ça n'empêche pas de travailler à côté sur l'aéroscreen pour avoir une meilleure solution. Parce que je pense pas qu'il soit laissé à l'abandon comme ça. C'est quand même, enfin.
Ah, mais de toute façon, il a jamais été. De toute façon, je me souviens, c'est Charles Whiting qui avait dit, c'était à fin mai, début juin, je crois, il avait dit voilà, pour pouvoir l'adopter pour 2017, c'est l'halo. C'est le halo, parce qu'on n'a pas le temps n'a pas suffisamment de temps pour pouvoir travailler sur l'aéroscreen. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, en 2017, on met le halo et ça nous laisse un an et demi pour pouvoir introduire en 2018 l'aéroscreen.
Ouais, ça me convient.
Ouais, mais moi, après, comme vous, je suis de loin, je préfère l'aéroscreen parce que il augmente encore plus la sécurité. Le truc, c'est que je me dis que si on ne met pas le halo, l'aéroscreen ne viendra jamais. Il faut commencer quelque part. Et c'est.
Enfin, avec aussi. Ces deux dispositifs, même si je suis un peu plus pour l'aéroscreen, moi j'ai toujours un souci en fait, c'est le niveau de l'extraction du pilote. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver en Formule 1, même dans la F1 moderne, une F1 qui se retourne. Comment le pilote il peut s'extraire d'une F1 retournée s'il a un aéroscreen ou s'il a un halo? C'est beaucoup plus compliqué et franchement, je considère plus important le fait de sortir d'une Formule 1, par exemple, si elle est en feu, etc., plutôt que d'un potentiel truc qui pourrait arriver dans la zone du halo, ce qui me paraît totalement probable. Mais voilà, enfin, pour moi, c'est peut-être plus important de laisser un certain côté ouvert en fait, à la Formule 1. Voilà pour ça. Par exemple, j'imagine bien qu'il n'y a pas eu le cas de Niki Lauda qui a été mis dans la présentation, parce que sinon, il serait mort actuellement. Donc, voilà.
Non, mais il ne prend pas tant de place que ça. L'aéroscreen, en tout cas, il en prend pas.
Mais si la F1 est... Si tu mets dans le cas où la F1 est retournée, par exemple, dans le cas d'Alonso...
Oui, non, mais bien sûr.
Tu vois, il sort comment, tu vois?
Ah bah, il a quand même compliqué. La place, par en dessous.
Oui, enfin... Il faut autant rendre le fait de s'extraire plus aisé, je trouve. Ce serait peut-être plus intéressant.
Ben en fait, je suis d'accord avec toi, Jassem. Il y a cette intégration qui est quand même assez importante. Après, moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'il... c'est quand même tout à fait faisable, c'est faire une simulation virtuelle d'une F1 et de la retourner sur le sol pour voir avec le halo, pour voir la place que ça laisse par comparativement parlant avec sans halo. C'est
avec la F1 moderne, le halo touche le sol, hein.
Je pense que non. La question de la voiture qui se retourne et du pilote coincé, c'est j'en reviens toujours à mon idée, c'est que c'est quand même une peur primale. Je suis pas sûr que ça soit toujours bon. Je rappelle l'accident d'Alonso en début d'année. Alonso, il est retourné au fond du bac à sable, certes, et il sort quasi immédiatement de sa voiture, alors que la course, ça n'a pas été neutralisée, alors que peut très bien avoir un concurrent qui roule sur un débris de l'accident et qui va droit sur sa voiture. C'est-à-dire, des suraccidents, ça existe. Il y a pas longtemps, je regardais le début du Grand Prix d'Italie 2000, où il y a le gros accident à la deuxième chicane, il y a un premier accident, et puis derrière, il y a une voiture, c'est une Arrows à l'époque, qui arrive sur le suraccident en se retournant, en faisant des tonneaux, elle tombe sur le côté d'une voiture qui était dans les graviers, je veux dire, ça c'est tout à fait des cas possibles, et là, dans ce cas-là, si un pilote s'extrait trop rapidement, pour moi, il se met plus en danger que s'il reste dans sa voiture. Après, faut quand même aussi... aujourd'hui, un circuit de Formule 1, c'est très sécurisé. C'est-à-dire, tu n'as pas, sauf exception souvent liée à la jeunesse d'un circuit, tu n'as pas de cas dans lesquels tu n'as pas de commissaire qui est à moins de 30 mètres, à moins de 10 secondes d'une intervention rapide, que ce soit avec un extincteur, que ce soit avec la possibilité d'extraire le pilote, voilà. Je pense que de ce côté-là, et puis, bon, on parle du fait qu'un débris, c'est rare, mais un débris, c'est rare, qu'une F1 se retourne, c'est pas non plus, ça n'arrive pas souvent. Quand même, ça arrive dans certains cas, on est d'accord, mais ça n'arrive pas souvent. Je suis pas sûr que la proportion de débris qui touche la tête d'un pilote et de voiture qui se retourne soit pas dans les mêmes eaux. Donc,
Y a quand même eu plus de F1 retournées sur ces 15 dernières années que de débris. Et en plus, l'accident avec le débris entre guillemets le plus connu,
oui, mais
c'est Massa en 2009. Et on a vu que le halo ne servait à rien.
Le truc, c'est que une F1 retournée. Elle est par elle-même sécuritaire parce que tu as un dispositif qui normalement interdit que la tête du pilote soit en contact avec le sol. Donc normalement, de ce côté-là, c'est balisé. C'est-à-dire une voiture qui se retourne, tu ne meurs plus. Tu n'es plus blessé normalement. Moins vraiment d'avoir la malchance de tomber sur le mur à cet endroit-là pile, tu ne meurs plus. Un débris, alors même si je suis bien d'accord que... Et ça répond un petit peu aux questions qu'on s'était déjà posées sur le halo. C'est-à-dire que ça n'est pas efficace dans certains cas et dans les cas qu'on a vus, notamment récemment. Mais le halo... peut protéger, et la finalité de toute façon, je pense, ça sera d'en venir à quelque chose qui ressemblera à l'aéroscreen, et puis au final, de toute façon, je pense que on y arrive notamment en endurance, ça va être aussi de fermer les Formule 1, parce que ça va être le sens de l'histoire, et que si on veut vraiment avoir le risque zéro sur ce plan-là, il faudra y arriver. Mais dire, à partir de là, je pense que... Enfin, moi j'avoue que je suis très réservé par rapport au halo, hein, je sais pas... Encore une fois, l'esthétique, c'est quand même important. Faut pas non plus le nier, même si ça doit pas être l'argument principal. Mais bon. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que la FIA ne l'impose pas.
Mais parce qu'elle a, je vais être honnête, elle a pas de couilles, la FIA.
Alors, ça ressemble.
La seule fois,
en 2009.
Alors que la seule fois, la seule fois qu'elle peut faire jouer son autorité dans le domaine de la sécurité, puis c'est le seul endroit où elle peut imposer quelque chose sans demander l'avis des participants à moins d'un an de la saison prochaine, elle pourrait le faire. Surtout qu'elle a quand même un certain soutien de ce côté-là et elle ne le fait pas. Elle cherche toujours, il cherche toujours à la FIA le compromis.
Alors que, elle a bien vu que ça a pas fait loin d'avoir fait l'unanimité, hein. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle préfère pas se mettre à dos tout le monde.
Peut-être que le plan de la FIA, c'est d'envoyer le halo au casse-pipe, de travailler un peu plus longtemps sur l'aéroscreen pour essayer de le passer à la majorité et non pas à l'unanimité en début de saison 2017.
Peut-être un plan aussi. Peut-être qu'ils veulent se dédouaner dans. Peut-être qu'ils n'y croient pas, qu'ils essaient de se dédouaner en fait du fait de ne pas mettre l'halo, quoi, en disant que c'est pas de notre faute, c'est de la faute des équipes, elles n'étaient pas d'accord.
Non, oui, c'est là, aussi, hein. Non, parce que moi je serais le premier à le retoquer, mais vous aviez qu'à l'imposer.
Ouais, je crois que ça c'est risqué comme stratégie, franchement.
Avec la FIA, on n'est jamais sûr de rien, de toute façon. Il y a deux façons de communiquer, mais c'est vrai que oui, ça peut paraître risqué. Mais... Au bout d'un moment, la FIA n'impose plus rien, de toute façon, à part un règlement, et encore, quand il y a des modifications, enfin bref, on va pas en discuter plus que ça, mais voilà, quoi.
Eh ben, on va quand même discuter d'un dernier point qui pourrait peut-être faire partie d'un futur règlement. Messieurs, c'est l'idée que les équipes vont débattre, qui est d'introduire une nouveauté dans le règlement, après un petit peu la grogne qu'il y a eu lors du Grand Prix de Grande-Bretagne qui a démarré sous voiture de sécurité. Et bien ça serait, en fait, pour les courses qui démarrent dans des conditions qui sont jugées peu sûres, et bien de faire démarrer la course effectivement sous voiture de sécurité, puis après quelques tours de neutralisation, et bien procéder à un vrai départ en faisant se positionner l'ensemble des pilotes sur la grille, et donc de donner de faire un départ arrêté après cette période sous voiture de sécurité. Alors c'est pas tellement nouveau, c'est pas tout à fait nouveau,
c'est ce que j'allais dire, hein.
Courant 2014, il y avait eu le projet de faire redémarrer chaque course après neutralisation de la voiture de sécurité, sauf au début et à la fin.
C'était pas un projet, ça avait été acté, hein.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ça avait été acté et retiré
avant la
saison 2015.
Ouais, avant qu'on ait pu avoir l'application.
Est-ce que ça vous plaît comme idée?
Je salue l'initiative. C'est vrai que y a pas de secret, hein. Un débat arrêté, c'est toujours plus spectaculaire. Maintenant, je me dis, quitte à faire, à devoir attendre pour faire un départ arrêté, autant ne pas lancer la course, attendre que la piste. Attends qu'il arrête de pleuvoir, que la piste s'assèche si vraiment la piste était trop détrempée, et démarrer la course après. Parce que si c'est pour faire des tours sous safety car pour rien, des tours qui forcément ne comptent pas, on reviendra au même.
En fait, ce qu'on nous propose, c'est juste de faire plusieurs tours de chauffe, quoi. En fait.
Ouais,
c'est tout.
Oui,
plusieurs tours de chauffe et plusieurs tours qui évacuent de beaucoup d'eau qui est sur la piste. Faut pas oublier quand même
c'est pour ça qu'on fait plusieurs tours de chauffe pour évacuer l'eau entre guillemets sur la piste.
Ouais, mais du coup c'est pas pareil que juste d'attendre que l'eau parte d'elle-même, quoi. C'est pour ça que faire rouler les 22 F1, ça permet d'évacuer pas mal d'eau de la piste. Moi Moi, ce que j'aime beaucoup, qui me fait mourir de rire, mais très très jeune, c'est qu'ils annoncent ça et en même temps ils annoncent ils se disent il faudrait simplifier les règles de la F1, c'est trop compliqué. Je vous laisse méditer.
Possible
vous avez 3
d'appliquer cette règle en disant que c'est simple. Hein. Si par exemple il y a de la pluie, on dit 5 tours de chauffe, c'est tout. Sinon un tour de chauffe.
Ouais, mais ça dépend de la quantité de pluie. Hein.
Oui, enfin, on va pas faire 45 tours de sécurité. Au bout d'un moment, on laisse les voitures et s'il y a de la pluie, elles se débrouillent. Hein. C'est des pilotes.
Ah, mais
hein.
Oui, mais ils sont bien capables.
Déjà, c'est super chiant de voir qu'ils sont même pas capables de piloter sous la pluie. Alors, ça vient de les voir un jour se battre avec leur monoplace, quoi. Un jour. Ça vient, non? Enfin, je sais pas.
C'est vrai
je connais plein de gens qui juste des gens, pas des fans de F1, qui disent tiens, cool, il y a de la pluie, la course, elle va être intéressante. Genre à Monaco, par exemple, où j'ai vu de ce, où j'ai eu ce, il y a eu aussi ce genre de cas. Ils ont vu que la course débutait sous safety car. Ils étaient dégoûtés. Donc, au bout d'un moment, faudrait peut-être les voir piloter sous la pluie un jour.
Surtout que ça s'est déjà fait par le passé, et un passé pas si lointain que ça, de démarrer, un départ arrêté sous la pluie. Silverstone 2008, par exemple, la piste était quand même bien trempée, et on a fait un départ arrêté. Enfin, c'est, je sais même pas comment on en est arrivé à prendre ça. Des départs sous safety car, dans des
c'est
conditions.
Ridicule.
Alors,
c'est
les pneus Pirelli, la non-confiance en les pneus Pirelli doit aider aussi.
Oh, ça date pas de l'époque Pirelli, hein. c'est plus vieux quand même. Alors, j'ai regardé rapidement, alors je sous réserve de vérification, mais normalement, le tout premier départ sous voiture de sécurité en Formule 1 date du Grand Prix de Belgique 97. Alors, ce qui est intéressant, c'est le Grand Prix de Belgique 97, donc vous vous souvenez que l'année d'après, il n'y avait pas eu de départ lancé sous voiture de sécurité.
Très,
ça avait créé un peu de problème.
C'était un peu chaud, oui.
Ouais, c'est ça qu'on veut. Oui, mais c'était une fois parmi d'autres, parce que vraiment, ça devait être trempé. Mais,
Belgique 2000, Brésil 2003, Japon 2007, 18 tours sous voiture de sécurité, Japon 2007,
oui.
Italie 2008. Chine 2009 et Corée 2010. Hors Pirelli, je parle évidemment.
Ouais, il y a eu quelques cas. Mais pour le coup, c'était vraiment des pistes détrempées et il pleuvait à verse.
Il y a des cas extrêmes. Après, on est par exemple en Malaisie 2009, par exemple. Ça, c'est un vrai cas extrême où la piste était totalement impraticable, mais on était loin de ça quand même dimanche dernier.
Ah oui, tout à fait.
On pouvait tout à fait piloter. Il y a deux solutions. Soit on a les pilotes ont peur ou je sais pas quoi, ou soit les pneus de pluie et intermédiaires ne sont pas spécialement performants. Je crois qu'il y a, je sais plus qui avait remis en cause en fait l'efficacité des pneus de pluie Pirelli.
Après il y a autre
Beaucoup
chose.
De gens.
Il y a autre chose parce que c'est bon, après on va pas taper forcément que sur Pirelli, hein. Pirelli ils ont pas énormément de tests sous
Ah
la
non
pluie
mais
pouvoir...
je tape pas sur eux en fait,
mais,
c'est quelque chose
remis
en cause en fait,
c'est tout. Il y a autre chose aussi qui a changé c'est vrai qu'on voit que ça s'est beaucoup développé à partir des années 2000, en gros. Effectivement, avec c'est vrai que le Grand Prix de Belgique 98 qui avait quand même... parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent toujours « Ah, mais laissez-les rouler, après tout, c'est les meilleurs pilotes du monde. » Oui, mais c'est pas parce que c'est les meilleurs pilotes du monde que tu peux pas faire une erreur et qu'il peut avoir des conséquences catastrophiques. Et sous la pluie, même si sous la pluie, statistiquement, tu as moins d'accidents mortels parce que forcément, il y a plus de prudence, sous la pluie... Une petite erreur en début de peloton, ça peut créer quelque chose de gigantesque. Le Grand Prix de Belgique 98, ça reste comme un souvenir peut-être amusant maintenant, mais c'est quand même une dizaine de voitures qui se percutent à haute vitesse dans un espace assez restreint. C'est un miracle que personne ait été sérieusement blessé ce jour-là. Et je pense que c'est vrai que ça a traumatisé. Mais après, je dirais qu'il y a quand même une évolution. La Formule 1 aujourd'hui roule de moins en moins, notamment les week-ends de course, et nous roule quasiment plus, et roule le dimanche seulement pour la course. C'est vrai qu'il y a une époque, j'ai fait des petites recherches, on n'hésitait pas à rajouter une petite séance d'un quart d'heure, 20 minutes avant le Grand Prix quand on voyait qu'il pleuvait, pour permettre aux pilotes de régler leur voiture, pour permettre aux pilotes de justement s'accommoder de ces conditions, de connaître un petit peu plus le circuit dans ces conditions-là, et après on donnait le départ de la course. Aujourd'hui en F1, déjà qu'on n'utilise pas beaucoup les pneus de pluie en dehors des cas où il y a vraiment de la pluie, et même dans ces cas-là, il n'est pas rare que ça ne roule pas du tout, donc connaissance des pneus pluie, elle est quand même très faible. Alors aujourd'hui, je pense que, surtout dans les conditions dans lesquelles on donne du travail à Pirelli, aujourd'hui, dans ces conditions-là, moi, ça me paraît risqué de lâcher les pilotes dans des niveaux d'eau. La Grande-Bretagne, c'est un peu particulier. La Verse, elle arrive d'un coup, elle repart aussitôt, mais c'est vrai que la piste est très détrempée. Et on a vu que même quand ça commençait à sécher, il y avait des zones dans lesquelles c'était super dangereux de passer à pleine vitesse. Mais je pense notamment à Monaco. Monaco en lui-même, c'est chaud. Mais en plus, il y avait quand même une quantité d'eau assez astronomique. On ne pouvait quand même pas décemment les laisser partir dans ces conditions-là. Donc après, il faut aussi savoir ce qu'on veut, parce que je pense qu'on est les premiers à se dire qu'au niveau sécurité, c'est des fois un petit peu chancelant. Et quand on dit un petit peu, je pense que ce week-end, et ce qu'on a vu déjà depuis le début de saison, ça démontre qu'on n'est pas tout à fait au point sur le plan de la sécurité. Alors si en plus on en rajoute en obligeant les pilotes à prendre part à des conditions totalement dantesques, alors qu'ils n'ont pas le travail nécessaire sur ces pneus-là, ça me paraît quand même compliqué.
Ouais, mais après, on est dans un cercle vicieux, donc ça veut dire que moins on...
Ah, mais... Oui.
Plus ça s'accentue, en fait.
Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Et en plus, faut aussi rappeler qu'il y a la famille Bianchi. On est dans un contexte, la famille Bianchi a attaqué les instances de la Formule 1 aussi. Ça fait aussi partie de ce contexte-là. Et moi, je suis très étonné. Alors, je pense que ça vient majoritairement des équipes, mais visiblement, la FIA a plus ou moins dit que c'était quelque chose d'envisageable. Mais je suis très étonné que cette idée-là arrive sur le tapis, alors qu'on sait bien que une des causes de l'abandon des projets de départ arrêté après Safety Car, c'était justement la série d'accidents qu'il y avait eu lors de l'été 2014 et aussi l'accident de Bianchi qui avait évidemment jeté un voile sombre sur cette nouveauté réglementaire.
Ouais, l'accident de Bianchi, c'était pas forcément dû à cause de la pluie. Enfin, en priorité, pour moi, c'est pas la pluie le problème, mais c'est une...
Oui, oui, non, mais je suis d'accord.
Mais à mon avis, je pense que ça, l'accident, voilà, aussi terrible soit-il, il est monté à la tête de pas mal de gens, et au final, là, j'ai l'impression que tout le monde s'est rétracté sur pas mal de trucs, quoi. Du coup, on prend le maximum de précautions, voire peut-être même, entre guillemets, hein, trop, au point où on se retrouve à faire des départs comme ça, sous ces petits cars. Après, oui, moi, il faut savoir ce qu'on veut, c'est sûr. Moi, en tout cas, je sais ce que je veux. Je veux pas. J'aimerais bien voir des pilotes quand même essayer de progresser sous la pluie, parce que c'est quand même pour ça que j'ai envie de les voir piloter dans des conditions pareilles. Après, je suis bien au courant qu'il y ait des conditions extrêmes comme en 2009, voilà. Mais là, à mon sens, c'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire de faire débuter la course sous la pluie. Ouais. Parce qu'il y a eu des conditions pires, et des conditions 10 fois pires. Et c'était déjà, il n'y a pas eu de voiture de sécurité comme ça. Enfin, dans les années 2000, c'était un peu plus. Et les voitures n'étaient pas aussi solides et sécuritaires que celles qu'on a actuellement.
Oui, mais voilà, c'est comme tu as dit, c'est un cercle vicieux à partir du moment où la direction de course, à chaque fois, se dit puis, ah tiens, on ne fait pas rouler, on met un drapeau rouge pendant les qualifs, etc. Ils ne s'en sortent pas, il faut vraiment. Reprendre du poil de la bête et refaire rouler les F1 sous la pluie, pas en compétition, mais en sorte de warm-up, pourquoi pas. Remettre un warm-up juste avant la course, quand les conditions sont aussi déplorables, ça permet aussi de tester la piste, oui. De l'assécher aussi un petit peu.
Réinstaurer un warm-up, ce serait bien.
J'ai envie de dire, l'état actuel de la réglementation, un warm-up, il ne servira à rien, puisqu'ils n'ont pas le droit de toucher au réglage. Donc ils préfèrent
c'est pas une question de réglage, c'est aussi une question
d'explorer la piste
à la pluie. Ouais, explorer la piste et puis et aussi la sécher à force de rouler.
Oui, c'est plus s'habituer à la piste, parce que s'il continue à pleuvoir, elle va continuer à rester mouillée. Mais au moins s'y habituer un minimum. Ça, c'est pour un warm-up, ça peut être utile pour la sécurité, ça, par exemple. Et on pourra continuer à avoir des courses sous la pluie disputées. Évidemment, s'il pleut, il y aura plus d'erreurs. Hein, il y en aura toujours plus. Il y aura toujours plus d'erreurs parce que certains pilotes ne sont pas forcément à l'aise avec l'eau. Et oui, il y a de plus en plus de chances qu'il y ait d'accidents. Mais bon, dans ce cas-là, on va pas arrêter les courses parce qu'il pleut. Quoi. Moi, quand je pense à grave accident, je pense à l'accident de Kubica en 2007. Ça date d'il y a 9 ans. Et on a vu qu'au final, voilà quoi. Il a dû prendre peut-être une course, mais il s'en est sorti indemne. Et les F1 ont fait énormément de progrès depuis.
Eh bien, en tout cas, messieurs, on verra ce qui ressortira des différentes réunions qu'il y aura cette semaine. Il y aura peut-être des décisions importantes pour 2017.
Je fais un pronostic. Il va en sortir de la merde, mais ça ne tient qu'à moi.
Red Bull va dire non, donc...
c'est un pronostic. Voilà.
Pour une fois que ce ne serait pas Williams.
Oui, voilà, c'est Williams.
Bon, attends, on ne connaît pas leurs arguments. Allez, messieurs, on va passer à ce qui nous intéresse, même si c'était très intéressant.
Ah oui, la belle-mère d'Ecclestone kidnappée.
Oui. On la salue. Je crois qu'elle est chez toi, Bilou. Si tu peux faire attention à toi quand même et à la belle-mère de Bernie. Messieurs, alors, on va commencer comme d'habitude par faire un petit tour de vos notes. Et là, vous me direz à ce moment-là ce que vous avez pensé de la course. Je laisserai le soin de justifier votre note. Alors, il faut savoir que le Grand Prix a obtenu une note globale de 9,70. Ça en fait le deuxième moins bon Grand Prix de la saison. Derrière quand même le Grand Prix d'Europe qui avait fait fort. Au niveau des notes, Ben a mis un 7 7, Bilot, tu as mis 9, Bûcheur, tu as mis 13, David a mis un 8, j'ai mis un 12, Jackie a mis un 8 avec un petit commentaire. Pas grand chose à noter sur ce Grand Prix, à part peut-être la moustache de Hamilton qui pousse tranquillement au vu du rythme de contrôle de course qu'il avait dans son avant-dernier relais. Jassem, tu as mis 13,87, Quentin a mis 10, Scani a mis 6, Shinji a mis 7 avec un petit commentaire, je n'aime pas les animaux préhistoriques partouzeurs de droite, et on le comprend, mais j'aime encore moins les pilotes néerlandais qui font de brusques changements de trajectoire, ça on pourra peut-être en débattre, et enfin Victor a mis 11,5, le public, nos auditeurs qui étaient 64 à donner leur note, ont mis une note moyenne de 11,05. Faut savoir que le Grand Prix de Hongrie, donc à 9,70, lors des deux saisons précédentes, ça avait été à chaque fois la meilleure course, celle qui avait été le mieux notée avec une édition 2014 à 18,72 et une édition 2015 à 19,28, donc petite baisse. pour être tout à fait honnête, Bilot, tu as mis 9, qu'as-tu pensé de cette course donc?
J'ai été très déçu, parce que la Hongrie, c'est souvent le théâtre de courses soit folle, soit bizarre. Et là, j'ai rien vu. Enfin, il s'est rien passé pour moi. Il y a eu un petit suspense avec un petit combat, mais un combat à distance, hein, que j'appellerais, entre les deux Mercedes, entre Ricciardo et Vettel, puis entre Verstappen. Alors, Verstappen et Ricciardo qui était plus qu'un combat à distance, mais bon, c'est très faible sur toute une durée de course. Même dans le peloton, les positions n'ont pas varié, n'ont quasiment pas varié. Donc il s'est rien passé pour moi. Donc il y a pas eu de belle bataille, il y a pas eu de stratégie non plus. Donc à partir de là, voilà, j'ai pas aimé.
Alors, tu as mis 13.
Je sais pas, non, parce que moi je me suis finalement, même si c'est pas effectivement passé grand chose. Moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait un petit aspect stratégique avec les décalages, des tentatives plus ou moins réussies, de stratégies décalées, de ce genre de choses. Et j'ai noté aussi quand même que, alors c'était des duels un peu à distance, mais il y a eu un peu de bataille. Et j'ai peut-être aussi en partie noté l'espoir de voir enfin un duel Hamilton-Rosberg qu'on attend encore et toujours, parce qu'on l'a pas eu. Donc, non, mais après, moi, je ne me suis pas ennuyé devant cette course, bizarrement, alors que...
Bah, tu n'es pas le seul, puisque Jassem, qui est avec nous, donc, a mis la meilleure note, 13,87.
Non, mais il ne s'accorde pas.
L'identité déjà, du troisième,
j'aimerais, le gros rôle. J'aimerais parler, déjà. déjà, faudrait déjà rappeler que 2014-2015, c'était des courses cool, mais c'est limite des exceptions par rapport à ce que nous offre d'habitude le Grand Prix de Hongrie.
Voilà. Ah, je suis pas d'accord.
Tu me diras peut-être à part 2006 quelle course a été intéressante en Hongrie ces 45 dernières années.
Mais, alors, les 10 dernières, alors à part 2007, les 10 dernières.
J'ai aucun souvenir. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup de dépassements, hein, parce que c'est pas un circuit fait pour. Hein, on le sait tous. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Il y avait pas forcément énormément de stratégie, mais il y a eu des attaques, il y a eu pas mal de suspense pour la première place quand même, hein. Même pour la troisième place, il y a eu aussi du suspense pour la cinquième place. Enfin, je me suis pas spécialement ennuyé. Enfin, il y a peut-être eu un flottement au début, mais au final j'ai trouvé ça une course plutôt intéressante. Je sais pas forcément une course stable, hein. Je vais probablement l'oublier à la fin de cette phrase. Mais franchement, j'ai trouvé la course plutôt intéressante. Voilà, je me suis pas ennuyé. Et ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec Ricciardo, étant donné que je ne l'ai pas vu, quasiment, à part à la fin du Grand Prix. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une belle course avec un beau podium, je tiens à le préciser.
Donc voilà, je résume. Alors, je résume.
Ne sera jamais assez.
Je résume ce qu'a dit Jassem. Il a noté le podium.
Non, j'aurais mis plus, hein, si j'aurais juste noté le podium.
Oui, non, parce qu'il était que troisième.
J'espérais même pas qu'il soit dans le podium au début, parce que on en reparlera.
Oui, on en reparlera.
Ouais, moi j'ai, alors moi j'ai mis 12, et donc, ah, c'est con parce que là, il y a les trois meilleures notes de cette course qui sont là. Et Bilo, tu seras, bah, tu seras celui qui représentera le, les
forces. C'est les délits syndicales des mauvaises notes.
C'est comme ça, ouais. Mais non, mais parce que c'est bon, on va pas se mentir, c'était pas un super grand prix, c'est sûr. Disons que c'était un grand prix normal de d'été, voilà.
Oui, c'est... voilà, c'est
on
ça.
Était... Là, on était bien, mais il y avait quand même des petits trucs à distance. Enfin, il y avait des duels, il y avait des vrais duels en piste, même si ça oui. s'est pas traduit par des tentatives de dépassement. Mais il y avait quand même des vrais duels en piste, notamment les Mercedes. On n'en a pas vu beaucoup cette année des comme ça, pour des raisons X.
T'as vu un duel entre les deux Mercedes?
Attends. Non, il y avait pas de duel. Autant il y avait des duels derrière, mais Rosberg, il a jamais tenté quoi que ce soit. Il s'est contenté de regarder l'arrière de la.
Mais bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a tenté grand chose.
Oh, mais voilà, mais c'est bien, ça montre bien que les duels, quand même.
Ah bah okay, non, mais c'est pas parce qu'il y a, mais c'est enfin... pas parce qu'il n'y a pas de tentative qu'il n'y a pas de duel. Moi, pour moi, il y avait des duels en piste. Qu'importe
oui,
le fait qu'il y ait.
C'est pour ça que j'ai mis 14 presque. Hein.
Voilà. Donc, enfin, moi, j'ai mis 13. Messieurs, je pense qu'on pourra en discuter puisqu'on sera amené à le faire. Et donc, on va se pencher sur la course, comme d'habitude, avec le quintet plus ou moins. Quintet plus ou moins, je rappelle le principe. Hein, vous avez, après chaque course, jusqu'à 5 bulletins de vote, en positif et en négatif. Et vous choisissez bah, de 1 à 5 pilotes qui sont peuvent avoir fait, selon vous, une bonne ou une mauvaise course. Et on compile tout ça, et nous, ça nous fait notre classement. Et comme d'habitude, on va commencer avec le quintet moins et par un homme qui est menacé. Par un homme qui est menacé pour la saison prochaine et qui.
Oui.
Et je pense que ça peut peiner beaucoup une personne ici. C'est notre ami Felipe Massa qui a reçu moins 41 et que des votes négatifs.
Il a
une
couru.
Course horrible, un week-end horrible. J'ai pas aimé. Non mais je vais du coup je vais ouais non mais week-end dégueulasse hein, du début à la fin j'ai une erreur impardonnable en qualification qui évidemment conditionne sa course sur un circuit où il est pas facile de dépasser mais même en course enfin il lutte avec des Sauber et des Manor c'est horrible il termine 18e à la régulière il est c'est nul
sachant qu'il a eu quand même on se souvient avant le départ, il a un problème. Et ce problème, c'est un problème de volant. Alors, apparemment, c'est un problème de poids. C'est-à-dire qu'un côté du volant était trop lourd par rapport à l'autre. Et visiblement, celle-là, ils n'ont pas réussi à régler le problème. Et ça l'a handicapé toute la course, apparemment. C'est la première fois que j'entends ça.
Mais c'est surtout, mais comment ça peut arriver qu'ils ne sont pas lestés, les volants? Donc, il ne peut pas manquer un poids quelque part? Soit il manque un morceau de volant, carrément. Mais c'est ça, c'est quoi cette excuse bidon de chez bidon?
Peut-être une lourdeur dans la direction, je sais pas.
Ah, après, une lourdeur dans la direction, mais c'est... Non, puisque... Et il dirait... Là, il aurait... si c'était une lourdeur dans la direction, à mon avis, il aurait arrêté tout
non,
de suite.
Non, non, mais il parlait du volant.
Mais donc, c'est pour ça, le volant, il doit faire... il doit même pas faire un kilo. Si je veux bien que t'aies 200 grammes d'écart, mais ça a pas changé grand-chose. Ouais, je vois pas. Alors, en fait, du coup, il avait du mal à rouler droit.
Bah, écoute, visiblement, oui. Il avait un problème... Alors, Barfapi nous dit sur le chat que Sky avait l'air parler d'un problème de colonne de direction. Alors, on sait que chez Williams, ça peut être problématique, les colonnes de direction, mais...
Chez Williams, oui.
Oui, oui, oui.
faut éviter les virages à gauche rapides, quand même.
Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc... Pas d'autre chose, messieurs, sur cette course, pas très visible, en plus, hein, donc...
Non. Place méritée de Massa.
Oui, je
laisse mériter. Quelle violence. Bah alors, messieurs, puisque Massa vous inspire, on va passer au deuxième de notre quintet moins. C'est aussi un pilote qui, de plus en plus, mine de rien, est en danger dans son écurie. C'est le russe Daniil Viat qui a eu moins 34 avec, évidemment, seulement 34 votes négatifs.
Lui, c'est sûr, n'est pas dopé. Il n'y a pas de soupçon de dopage le concernant. Il faudra bien faire les JO. Non, bah lui aussi, c'est un peu pareil. Mauvaise course. Même si à un moment donné, il était dans le top 10 avec une stratégie décalée, mais je pense que stratégiquement, il aurait pu mieux faire en fait. Il s'est arrêté un peu trop tôt pour son dernier relais. ou un peu trop tard, je sais plus. Enfin bref, du coup, il s'est retrouvé assez loin et n'a pas eu le temps pour remonter. Mais de toute façon, c'est juste la confirmation qu'il est vraiment dans une mauvaise passe. C'est terrible. La comparaison, en plus, on y reviendra, face à son coéquipier, est assez violente.
Alors lui, il met sa mauvaise course sur le compte, évidemment, de son départ. C'est vrai que le départ n'a pas été terrible. Il était 20e à la fin du premier tour, alors qu'il s'est lancé 12e. Du coup, il s'est retrouvé coincé derrière Massa. On retrouve notre ami Massa.
Kvyat, il avait qu'à prendre un meilleur départ aussi. Ça fait partie de la course.
C'est vrai.
Ah, il fait 23... Ah. J'ai fait 23 tours en super tendre à la fin, donc ça aide pas.
Je vais être honnête quand même, parce que tu as abordé le cas de Kvyat, et j'étais obligé de regarder dans notre joli tableau du live pour voir à quelle position il avait terminé. Parce que, je veux dire, il est passé inaperçu.
16e, effectivement. Et pénalisé aussi pour excès de vitesse dans les stands. Donc, une course complète quand même, on peut le signaler.
C'est déjà pas mal, oui.
Plutôt bon dans tous les compartiments.
Mais je vois bien qu'on n'a pas grand chose à dire sur Kvyat, mais c'est vrai que peut-être que on peut regarder sa performance à la lumière de ce qui se passe en GP2, parce que c'est vrai qu'il y a deux courses de cela, on avait un petit peu rigolé sur les performances de Gasly. Bah, il se trouve que depuis
il s'est sorti le doigt du cul.
Depuis, il a gagné deux courses, il n'avait pas gagné pendant pratiquement 3 ans, et il en a gagné deux d'un coup. Et c'est vrai qu'il se murmure que ça a attiré l'attention chez Red Bull. Alors pas au point évidemment pour l'instant de remettre en cause ce qui a été dit, parce que je rappelle ce qui a été dit, c'est que Kvyat était a priori le pilote pour la saison prochaine aux côtés de Sainz. Mais bon, c'est vrai que si les deux courbes continuent à se croiser comme ça, il se murmure chez Red Bull que les courses à venir pourraient être décisives dans l'avenir de Pierre Gasly. C'est vrai que de l'autre côté, Kvyat a quand même un peu tendance à s'éteindre, quoi.
Ah, c'est la bonne période pour Gasly pour enfin faire des performances.
Faut qu'il continue
son rival entre guillemets. Ouais. Mais après Gasly, enfin, je sais plus si j'avais pu le dire sur une émission ou sur le chat ou ailleurs. Je trouve tout de même que cette saison, même s'il y a eu des hauts et des bas, c'est mon sentiment personnel, c'est pas du chauvinisme. C'est, je trouve qu'il est au-dessus quand même du reste du peloton GP2. Parce que quasiment à chaque week-end, on sent qu'il a quand même une petite marge. Alors après, il fait des erreurs, comme en Autriche. Il a aussi, il y a aussi des fois où il n'est pas verni, comme Azerbaïdjan ou Autriche quand même. Il est en tête. Il faut qu'il pleuve à ce moment-là. Voilà, il y a des faits de course. Alors soit qui sont de sa faute, soit pas, qui font que il n'est pas largement devant au championnat. Reste qu'il est quand même en tête du championnat et qu'il prouve maintenant à chaque week-end. Et ça fait deux week-ends de suite maintenant qu'il est propre et qu'il est un petit peu au-dessus des autres. Maintenant, il faut continuer. On n'en est qu'à la mi-saison en GP2. Il faut continuer sur cette voie. Et je dirais que, à mon avis, il a plus son destin entre ses mains qu'il y a un mois. Parce que là, même si Kvyat arrête de sombrer, mais reste derrière Sainz, mais que Gasly, dans le même temps, gagne le titre GP2, je pense que... Quoi qu'il arrive avec Kvyat cette saison, à part si Kvyat fait vraiment d'énormes performances, Gasly devrait le remplacer. Ça dépend vraiment de Gasly, je pense, maintenant.
Mais ce qui est grave, c'est que on devait établir quand même une comparaison entre Kvyat et Sainz depuis l'Espagne. Et depuis l'Espagne, Sainz a marqué 26 ou 28 points, et Kvyat en a marqué 2. Enfin, c'est
Aïe.
Catastrophique, c'est
Aïe.
Horrible.
C'est violent, c'est très violent.
Pour moi, s'il continue comme ça, il ne finira même pas la saison. On parle de Kvyat en 2017, moi j'y crois pas déjà, je pense qu'il partira à la fin de la saison.
Ah, c'est ce qu'a dit Horner, hein. C'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, enfin Horner, il dit des choses, mais après, il y a Marco derrière. Mais je pense pas, ça m'étonnerait pour moi, ça sent la fin. Mais bon, à moins d'un miracle, d'un retournement de situation, Kvyat nous fait des... performance incroyable, j'y crois pas du tout. Pour moi, c'est sa dernière saison, s'il l'a fini.
Après,
ça va vite la F1 quand même, hein, de passer d'un podium avec Red Bull à virer de chez Toro.
Ouais, enfin, à mon avis, Red Bull, ils sont quand même échaudés par ce qu'ils ont fait, justement, parce que Kvyat, qu'il aille chez Red Bull, c'était pas prévu, c'était pas le chemin normal. Ils ont un petit peu surréagi au moment où Vettel a annoncé qu'il quittait. Ils ont un peu surréagi, et puis un peu de leur faute aussi, parce que c'est eux qui avaient mis Vergne à la porte de leur filière à ce moment-là, donc ils se sont retrouvés avec comme seul pilote possible et réellement envisageable Kvyat, qui a été poussé dans le grand bain, bon, qui a pas forcément... Après, c'est pareil. Comment ?
Il y avait Raikkonen.
Non, mais...
Ouais, il y avait des rumeurs, quand même.
Red Bull s'appuie quand même maintenant totalement sur sa filière, hein. C'est quand même...
Non, mais c'était en 2014, oui. Je comprends avec 2013.
Sauf que la filière Red Bull, elle est en train de s'assécher.
Ah, au bout d'un moment, quand
ouais, mais ils n'ont pas besoin qu'elle soit... Ils n'ont pas besoin de la suralimenter pour l'instant, puisqu'ils ont déjà 3 pilotes sur 4 qui sont certains de continuer au minimum la saison d'après. Et bon, pour Sainz, on peut quand même estimer qu'il y a de grandes chances qu'il reste dans la filière, en 2018 aussi. Ils ont besoin au final que d'un pilote. Et ils ont déjà Kvyat qui, même si Kvyat, c'est sûr que c'est difficile, mais il faut aussi prendre en compte le contexte. Tu passes d'une Red Bull à une Toro Rosso, même si la Toro Rosso est plutôt sympa au terme de performance, c'est un, le choc de la voiture, et deux, le choc psychologique. Il ne faut quand même pas non plus mettre totalement de côté, même si, bien d'accord, que. Voilà, Kvyat a quand même beaucoup de mal à soutenir la comparaison sur les dernières courses. Il devrait quand même déjà avoir un petit peu il devrait y avoir de la matière quand même à comparer ce qu'il fait, quoi. Mais Red Bull, ils n'ont pas besoin d'une filière qui soit surabondante. Ils ont eu ce problème et ils ont lâché dans la nature des pilotes, même s'ils n'ont pas fait carrière en Formule 1, on est bien d'accord. Mais ils ont lâché beaucoup de pilotes dans la nature, Alguersuari et Buemi, bon.
La filière Red Bull a plus détruit des carrières Formule 1 qu'elle en a créé, hein, finalement. Donc j'ai un problème avec cette filière. De toute façon, c'est que j'ai l'impression qu'elle traite les pilotes comme si elle traitait un peu comme une espèce de machine. Bon, elle est défectueuse, hop, on la change. Enfin, ça me paraît. J'aime pas trop cette vision de la filière, en fait. De toute façon, là, ils sont en train d'arriver à la limite, hein. Toro Rosso, ça devrait être à un moment autre chose. Une espèce de filière d'écurie bis, quoi. Faudra peut-être qu'elle devienne une vraie écurie un jour.
C'est paradoxal parce que c'est une filière qui promeut les jeunes talents, oui. Mais qui au final, c'est plus une filière pour aider Red Bull, pour choper le meilleur pilote possible. Pour eux.
Ils font pas ça pour les autres, hein, à mon avis. Ils font pour eux, hein. Ils sont pas philanthropes.
C'est quand même un constructeur qui a deux écuries, qui a quand même c'est rare pour le souligner, mais quand tu regardes toutes les écuries, c'est très très rare que tu aies une écurie qui, formant un pilote dans les catégories, dans les formules de promotion, l'amène vers la F1. Et bon, bah évidemment, t'as le palier Toro Rosso avant Red Bull, mais c'est très très rare. Quel exemple tu peux citer dans les grandes écuries qui ont récemment amené un pilote des formules de promotion à l'écurie A? Enfin, moi, je dites-moi si je me trompe, mais moi, pour moi, il y a que McLaren, et ça date d'Hamilton, ça date de 2007.
Ouais.
Si t'enlèves Red Bull, évidemment. Alors que Red Bull a fait confiance, oui, et Magnussen, tout à fait. Alors que Red Bull a fait confiance à des pilotes et leur donne les moyens à la fois de prouver ce qu'ils valent auprès de Red Bull, mais de prouver ce qu'ils valent auprès des autres écuries. Je pense que, par exemple, un pilote comme Sainz, on sait très bien que sa malchance, entre guillemets, dans la filière Red Bull, c'est d'être tombé à côté de Verstappen. Mais un pilote comme Sainz, on sait déjà qu'il a tapé dans l'œil de d'autres écuries. C'est-à-dire que si Sainz demain se retrouve sans volant chez Red Bull, il y a quand même très peu de chances qu'il le soit en F1. Il y a des pilotes, malheureusement, qui n'ont pas eu l'opportunité de le prouver. Alguersuari ne l'a pas prouvé. Buemi ne l'a pas forcément prouvé. Voilà.
Oui, mais c'est des pilotes qui, par exemple, comme Vergne, qui n'ont que Red Bull. C'est-à-dire que les autres écuries, c'est des écuries qui n'ont pas forcément des finances de dingue par rapport au machin. Donc, ils doivent avoir un revenu. Ils n'ont pas de revenu. C'est juste des pilotes soutenus par Red Bull. Vergne, tu ne vas pas me dire que Vergne n'avait pas sa place en F1. Quand il a été libéré par Red Bull, il n'avait pas d'argent. Enfin, il n'avait pas de sponsor, c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer en F1. Je pense que Sainz, aussi talentueux soit-il, il n'a pas forcément les sponsors qu'il faut pour peut-être attirer une écurie comme ne serait-ce que Force India, par exemple. Je vois aucun pilote aujourd'hui, ancien pilote Toro Rosso, à part évidemment Vettel, avoir été dans une autre écurie. Donc pour moi, il laisse en fait, aussi bon soit-il, Si la filière Red Bull n'est pas intéressée par ce pilote, il peut être excellent, peut-être même champion du monde, un futur champion. Il va être laissé dans la nature, sans sponsor en F1. Du coup, bah, il va falloir qu'il se tourne vers une autre discipline. Et c'est ça que je reproche un peu à la filière Red Bull, c'est que voilà, je l'ai dit, elle détruit plus de carrières en F1 qu'elle n'en crée.
Bah,
c'est
pas
ce que vient Alguersuari.
C'est-à-dire que
moi, je sais pas.
Le principal avantage de la filière devient son défaut une fois que le pilote arrive en F1, se retrouve ne se retrouve plus chez Red Bull.
En plus, on leur laisse le problème. On leur laisse que 2-3 ans, quoi. C'est pour des jeunes de 20 ans. C'est rien. Enfin, à 23 ans, le pilote le plus jeune de l'histoire, il y a 10 ans, 15 ans, il venait de gagner. Enfin, il avait 23 ans et là, on demande à des jeunes de 20 ans d'être performés immédiatement. Ça paraît énorme, mais on n'a pas des Verstappen tous les 2 ans, quoi.
Après, les pilotes qui s'engagent dans la filière Red Bull savent à quoi s'en tenir.
Ils ont des agents, donc on ne sait pas, en fait. Hein.
Ouais, mais si, ils savent que... Enfin, c'est quand même eux, à la base, qui décident s'ils veulent faire partie de la filière Red Bull. Et évidemment, elle détruit des carrières en F1, mais bon, c'est soit ça, soit ne pas du tout faire partie d'une,
bah ça, on en
d'une
sait
filière
rien.
Et, on ne en pas, sait rien. Et ne pas y être.
Verstappen, je pense qu'il aurait quand même été en F1, peut-être plus tard, avec son talent, il aurait quand même été en Formule 1.
Après, de toute façon, Verstappen, de toute façon, il n'est pas passé par la filière Red Bull.
En plus, c'est pas vraiment la filière Red Bull, mais vous voyez l'idée.
Ah, mais il a signé 6 mois avant de le faire venir en F1.
Oui, c'est pas ce que j'appelle la filière. Oui, mais bon, ça veut dire qu'il y avait même Mercedes qui était intéressé par lui, donc si t'as du talent, il y a des écuries qui te remarquent.
Ouais, mais le Red Bull a quand même le mérite, même si effectivement c'est dur pour la plupart des pilotes, elle a quand même le mérite de les amener en Formule 1. Après, effectivement, comme dit Fab, à eux de se démarquer, faire voir par les autres équipes.
Mais il y a deux solutions. Soit tu viens en F1 chez Red Bull à 20 ans, peut-être même pas prêt, trop jeune, ou soit tu attends 3 ans, certes tu vas pas en F1 tout de suite, mais peut-être que tu prends le temps d'avoir des sponsors, aller dans une écurie peut-être moyenne, et essayer d'avoir une carrière plus longue. T'as plus de chances d'avoir une carrière plus longue en commençant dans une autre écurie que Toro Rosso qu'en passant par la filière Red Bull, quoi.
Alors là, c'est pas certain. Hein. Gus cite beaucoup d'exemples de pilotes qui ont fait partie de filières. Il cite Montagny, Danielson qui était dans la filière Renault, filière Toyota avec Ryan Briscoe, les pilotes de la Ferrari Driver Academy qui étaient aux côtés de Bianchi. C'est vrai que à part Bianchi, il y a quand même pas de
mais ils n'ont pas des écuries secondaires. Ils ont que deux places de toute façon. Renault à l'époque n'avait que deux places. McLaren avait eu à deux places. Enfin là, on parle d'un cas très spécial quand même, d'une écurie, d'une espèce de double écurie en fait. Il y a toujours eu des filières académiques comme la McLaren Academy, etc. Mais au final, ça appartient aux écuries. Donc au final, on sait pas trop quoi. Enfin, c'est différent, je trouve. Mais là, on donne la chance à des pilotes jeunes dans des écuries en fait. Là, mais aussi c'est ce que je pourrais reprocher à la filière McLaren qui a donné qu'une année à Magnussen et l'a viré comme ça juste au bout d'un an quoi. Enfin,
ils l'ont remplacé par un double champion du monde.
Ah non, champion du monde. Surtout qu'ils l'ont remplacé, ça devait être Button qui devait presque partir mais il est resté, donc il y avait le choix entre lui et voilà quoi.
Pour le coup, c'est un peu différent le cas Magnussen comme le cas Pérez d'ailleurs qui était un petit peu dans une guerre interne.
Ben voilà, Pérez par exemple. Pérez, il a été dans la Ferrari Academy. C'est pas forcément un pilote, un futur champion du monde. Et on voit que le mec, il est là depuis 2011 et quand même, il fait sa petite carrière. Qui pourrait penser de Pérez il y a 2-3 ans qu'il arriverait à avoir un niveau aussi bon. Si on ne laisse pas le temps au pilote, au bout d'un moment, comment vous voulez voir son talent en fait ?
Pérez, il a montré rapidement qu'il avait le talent et il a les fonds. C'est presque l'idéal, Pérez.
Oui, mais voilà, c'est ça. C'est vaut mieux avoir une carrière à la Pérez qu'à la Buemi.
Oui, mais t'en as pas beaucoup.
Mais ça dépend pas de la filière.
Il y a pas beaucoup de pilotes de Formule 1 en général, de toute façon.
Il serait dans la filière Red Bull, il aurait la même chose, hein, je pense, parce qu'il aurait commencé chez Toro Rosso, on l'aurait remarqué, et même si Toro Rosso l'avait, même si Red Bull l'avait délaissé, s'il a les performances,
non,
il a les sponsors.
On peut pas spéculer là-dessus, par contre. On pourra jamais spéculer là-dessus.
Parce que tu viens de parler de fonds. Il a l'argent, quoi qu'il arrive.
Mais l'année où il se révèle, Pérez, avec une monoplace particulière, etc. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui font que...
Mais tu peux toujours te révéler.
Ouf, pas
la Toro Rosso n'est pas dégueulasse. La Toro Rosso a jamais été une très mauvaise voiture.
Non.
Tu peux toujours te révéler avec une Toro Rosso.
Oui, toujours, c'est possible, mais il y a des pilotes qui n'ont pas eu cette chance.
Bon, ça, après, ça se discute.
Vergne, par exemple, c'est un bon pilote. Il n'a jamais pu avoir de gros coups d'éclat, et pourtant, ben voilà quoi. Il est en Formule 1 maintenant, donc, alors qu'il pouvait tout à fait être en F1.
Et chez Ferrari aussi.
Oui, enfin, ouais. Emploi fictif.
J'ai dit, tu peux te démarquer, tu ne le fais pas forcément. Vergne, oui, je reconnais ses qualités de pilote, mais il n'a pas fait suffisamment de.
Il y a des pilotes qui sont démarqués, hein, Vettel, Ricciardo, etc. Bah oui. Mais voilà, quoi. C'est rarissime par rapport au nombre de pilotes qui viennent chez Toro Rosso et qui finissent dans d'autres formules, quoi.
Mais la F1, c'est l'élite. Enfin, à un moment donné, un pilote peut être très bon, oui, mais il y a de la place que pour 22.
Ils ont 22 ans, mecs qui se font virer chez Toro Rosso. Ils ont pas, c'est pas Adrian Sutil, par exemple, qui a fait 5-6 ans avant de comprendre que voilà. Voilà. Là, on parle de jeunes. Viet, il a 21 ans, par exemple. Enfin, pour se mettre dans le contexte, Viet, il a 21 ans. Vergne, il a 24-25 ans. Et c'est des pilotes qui ont déjà une carrière finie en F1, on va dire.
Bah, ils ont eu 3 ans.
C'est pas assez.
Oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir plus. Mais bon, ils ont pas non plus. Enfin, ils ont eu une opportunité.
Oui, enfin, l'opportunité, c'est plus un cadeau empoisonné. Pour moi, je trouve que c'est un cadeau empoisonné parce que ce que demande Red Bull, c'est des pilotes comme Verstappen, talentueux, d'entrée, ultra rapide, des mecs comme Vettel, voilà quoi. Mais et encore, Ricciardo, ils n'étaient pas sûrs en 2013 s'ils voulaient le prendre ou non. Hein. Il y avait encore la rumeur avec Kimi Raikkonen. Donc, ils demandent des pilotes comme Verstappen. Pour moi, Verstappen, c'est un peu le pilote archétype de ce que souhaite Red Bull, en fait. Voilà, c'est un pilote, il est jeune, il est rapide, il est déjà mûr, il est... Voilà, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour la Formule 1.
Mais toutes les
équipes. Évidemment, pour moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est que Carlos Sainz, il veut aller chez Red Bull, mais il y a 2 places chez Red Bull. Et il va faire quoi? Ils vont le virer parce qu'il y aura d'autres personnes qui pousseront la porte à un moment donné chez Toro Rosso. Donc, il y a Daniel Ricciardo et Verstappen qui vont être là pour au moins 2 ans. Qu'est-ce qui va devenir, Sainz? Il va rester chez Toro Rosso, mais à un moment donné, il y aura d'autres jeunes pilotes qui pousseront et ils verront que Sainz ne progressera pas alors qu'il est bon et ils le viront. Voilà, ça, c'est le risque à prendre avec cette filière.
Alors, le problème, attends, c'est là où je reviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand ils sont en train de sacrément réduire les effectifs dans la filière.
Pour moi, ils sont en manque de pilotes. Parce qu'ils ont tout écrémé.
Non, apparemment, c'est surtout que maintenant, ils ont sacrément réduit le nombre de pilotes qui soutiennent parce que ça coûte très cher. Et je pense qu'ils ont mis le doigt sur leur problème. C'est que quand ils ont trop de talent juste aux portes de la F1, ça pose de problème. Et je pense que c'est clairement un déclencheur. Ça a dû être le fait de se séparer de Vergne. Parce que clairement, ils n'auraient pas signé Verstappen. Vergne, il serait encore en F1 chez Toro Rosso. Parce que c'était certes, c'est pas un Vettel, un Verstappen, tout ça. Ça reste par contre un pilote très solide. Et ils pouvaient compter sur lui. Et je pense que c'est ça. Leur problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que d'avoir trop de pilotes prêts à monter en F1, à vouloir tester en F1, c'était problématique pour les. Parce que ça obligeait à se séparer de pilotes sur lesquels ils pouvaient quand même compter quelque part, qui étaient déjà là.
La politique de Red Bull, c'est de prendre des champions, de toute façon, on le sait. Ils prennent plein de pilotes et ils font le tri. Après, c'est un combat. C'est un combat. C'est celui qui est le meilleur, qui a le droit de rester. Oui. Ça a toujours été comme ça. Et bon, moi, je ne leur reprocherai pas forcément ça. La F1, encore une fois, ça doit être l'élite. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour des pilotes qui sont bons, même s'ils n'ont pas forcément d'argent qui va avec. S'ils sont assez bons, ils peuvent se faire prendre par des écuries qui n'ont pas forcément besoin de pilotes sponsorisés ou avec une mallette.
Messieurs.
Comme ça peut être le cas d'une écurie.
Voilà. Messieurs, allez. On s'arrête là, on sent qu'il y a de l'envie de débat sur la filière Red Bull. Et je vous propose de passer au troisième de notre quinté témoin qui alors, à vous de juger, réunit-il talent, fond, tout le reste. C'est notre ami Esteban Gutiérrez.
Alors, argent, oui.
Inscrit moins 26 votes, 2 votes positifs, 28 votes négatifs.
Devrait regarder un peu plus dans ses rétros, quand même. qu'il a quand même bien gêné.
C'est le moment marquant de sa course, malheureusement.
Voilà, c'est un peu ça.
C'est le seul moment où on l'a vu.
Il est 11e en plus à ce moment-là. Il est pas loin de son premier point. C'est dommage. Mais il fait une course correcte. Après, j'ai rien d'autre à dire sur lui.
Il double Grosjean. Alors évidemment pas en piste, mais au stand, il fait un très bon tour de rentrée, très bon tour de sortie. Ou alors, est-ce que c'est Grosjean qui fait deux très mauvais tours? C'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, il est devant Grosjean pendant la course et c'est plutôt sur un rythme correct, effectivement. Et il a pas de chance. Je veux dire, il a pas de chance parce que. C'est pas la première fois qu'un pilote ignore les drapeaux bleus, mais ça doit être une des rares fois où quand un pilote ignore un drapeau bleu, il y a une caméra embarquée sur lui pendant un demi-tour. Et ça, mine de rien, c'est
pendant
là qu'on voit que...
Trois quarts de tour. Trois quarts
ouais,
de
ouais,
tour.
C'est vrai que... C'est vrai. Oui, non, à partir du virage 4, je crois. Et c'est vrai que là, on voit bien. On voit bien le problème de Gutiérrez. Mais c'est... Enfin, bon, je pense qu'on sera... d'accord pour dire qu'effectivement il a ignoré les drapeaux bleus, en tout cas il n'a pas fait les efforts nécessaires pour les respecter. Malgré tout, ça confirme un petit peu, j'ai toujours cette marotte, mais que quand quelque chose se voit sur la réalisation TV, bizarrement, les commissaires sont bien plus prompts à s'en occuper que quand quelque chose ne se voit pas tout de suite. Quoi qu'on a vu ce que ce week-end, pas forcément, mais on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, sur ce cas-là précis, le tour se termine, Hamilton le passe, dans la minute, il y a l'annonce de l'enquête.
Oui, mais ça a souvent été comme ça, hein, des incidents qui se produisent face caméra, pendant qu'ils sont diffusés, sont forcément beaucoup plus regardés par les commissaires. Après quoi qu'il en soit, il méritait une petite pénalité de son geste.
La pénalité pour moi elle est normale et mais je suis d'accord avec Fab, ça se demandait quand même si ils ont autant de les commissaires, t'as l'impression qu'ils sont juste le flux de diffusé de la femme quoi, qu'ils ont pas d'autres écrans de contrôle pour surveiller autre chose, c'est hallucinant.
Oui, et je rappelle encore une fois, je le fais assez souvent, mais les commissaires, ils ont un véritable panel d'écrans, un système de logiciels de détection par satellite, je déconne pas, qui leur sert normalement à vérifier tous ces incidents. Ils ont vraiment une salle de contrôle dédiée, donc c'est pas, c'est normalement, c'est pas quelque chose qui doit être influencé par la visibilité à l'écran. Et d'ailleurs, comme le rappelle justement Gus, c'est vrai qu'au Canada, il y a eu le problème entre Grosjean et Vettel, qui avait été filmé de manière assez prolongée, et il n'y avait pas forcément eu de réaction. Enfin voilà, c'est vrai que des fois, c'est intriguant, quoi. Rien d'autre à rajouter sur la course de Gutiérrez, messieurs ?
Non, on l'a pas vu, pas grand-chose à dire.
Eh bien, je vous propose de passer à quelqu'un qu'on a vu aussi, pas forcément là encore dans sa meilleure position. Le quatrième de notre quintémoin, c'est Jolyon Palmer, un habitué. Moins 22, 4 votes positifs, 26 votes négatifs. J'ai envie de dire dommage.
Oui, c'est...
Bientôt, ce sera le quintémoin qui sera Jolyon Palmer, à ce rythme. Hein.
je rappelle que... Pour sa première course en F1, il était dans le Quintet Plus.
Le Quintet Plus ou Jolyon Palmer, ça sonne bien, non ? Vous trouvez pas ?
C'est franchement dommage, parce que je pense qu'il l'avait, son premier point. Enfin, il fallait résister à Hülkenberg, oui. Mais bon, sur un circuit où c'est franchement très difficile de doubler, surtout cette année, vraiment...
Ne sous-estime pas Jolyon. Jamais.
Non, mais enfin voilà. Là, il
se serait fait dépasser dans la chicane, la grosse chicane.
Non, tu peux. Ah, ne tirons pas sur l'ambulance. Non, je pense qu'il aurait quand même eu des grosses possibilités de se défendre. C'est dommage. Ouais,
l'ambulance,
c'est
le corbillard.
Ouais, le point était pour. Le point était pour lui. C'est dommage. C'est vrai, c'est vraiment dommage. Parce que là, son premier point F1, il le tenait. La course est pas mal parce qu'il part loin. Il profite de quelques enfin d'un arrêt au stand un petit peu raté côté de chez Hülkenberg et aussi de Pérez, mais il tient le rythme d'Hülkenberg en première moitié de course. Il est vraiment pas loin derrière et voilà, au stand, ça s'est joué au stand pour qu'il passe devant, mais c'était bien joué. C'est dommage. Je retiendrai quand même ça plus sa course que cette petite erreur évidemment qui gâche tout, mais
ouais, voilà, je suis d'accord.
Il était quand même en position d'être de marquer un point et ça doit être souligné.
Je suis assez d'accord avec ça.
Oui, après, je pense que le fait qu'il ne soit pas dans les points tient plus à la Renault qu'à Jolyon lui-même.
Ah, alors ça, par contre,
ça, on peut rien en dire. Hein.
Je ne sais pas.
C'est une supposition que je lance comme ça.
Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est globalement une course vraiment... C'est vraiment convaincant, quoi. Ça aurait été convaincant s'il avait réussi à aller jusqu'au bout, mais... Ouais, mais même s'il avait, même à la limite s'il avait pas marqué le point, mais même s'il s'était fait passer par la Force India, on n'aurait pas forcément été très sévère, je pense, parce que
oui.
Globalement c'était quand même une course convaincante, mais là oui effectivement c'est.
C'était presque une course de pilote de Formule 1. Il y est presque. Allez, encore 5-6 courses.
Quelle sévérité.
On est méchant parce que comme tu l'as rappelé. Il a quand même, on l'avait quand même mis dans notre Quintet Plus. Bon, nos auditeurs l'avaient mis dans le Quintet Plus pour sa première course où il avait montré de très belles choses.
Vous connaissez pas encore.
Il est victime du syndrome du rookie, c'est-à-dire qu'il fait une, deux, trois premières courses très bonnes et après il retombe tel un soufflé et ça devient un peu n'importe quoi.
Lui, il avait fait une course très bonne et puis il était tout de suite retombé.
Un soufflé, ça peut ouais. Retomber très vite.
Comme quoi, l'Australie, c'est quand même une terre assez spéciale.
C'est un peu le syndrome Felipe Nasser, quoi. Il y a quelque chose
voilà.
De...
Ouais, j'allais le dire, mais il a quand même marqué quelques points après.
C'est vrai, oui. Même lui, il l'a fait. Bon, ben, messieurs, ne nous attardons pas sur Jolyon.
Ouais, non.
Même si lui, il ne va peut-être pas s'attarder en F1 non plus, donc à voir sa situation. Et penchons-nous. Alors, j'avoue que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment un habitué du quintet moins. Et pourtant, il y est. Donc, ça nous dit quelque chose d'intéressant. C'est un pilote de la filière Red Bull.
Ah oui.
Depuis 6 mois.
C'est un pilote Red Bull. Et c'est un pilote Red Bull depuis pas très longtemps. C'est Max Verstappen qui est donc 5e du quintet moins avec moins 17. Alors là, du coup, comme c'est quand même un grand nom, c'est partagé, hein, plus partagé que les autres, disons, avec 10 votes positifs et 27 votes négatifs. Ça sent la fin de course un petit peu influente dans ce quintet moins.
Après, même sans ça, sa course est franchement pas extraordinaire. Yeah. Alors déjà pour parler de sa course, voilà, bon, alors je trouve déjà bon départ parce qu'il part sur le côté du côté sale et il reste 4e. Après, il est juste derrière Ricardo, donc tout va bien. Et puis malheureusement, il y a cette overcut du coup où il s'arrête un tour plus tard et ça lui coûte cher parce qu'il repart derrière Raikkonen. Et là, bah, il est bloqué, il perd 10 secondes sur Ricardo Vettel et il se retrouve même en difficulté du coup par rapport à la stratégie de Raikkonen qui remonte sur lui à la fin. Alors après, je vais continuer, je vais parler de sa manœuvre sur Raikkonen. Moi j'ai pas été très content. Et pourtant j'aime bien le pilote, franchement, je suis ébloui par ce qu'il fait depuis quelques semaines. Mais là franchement, je n'ai pas aimé sa défense, qui est dangereuse parce que là on en parle. Enfin, il n'y a pas eu de sanction parce que les conséquences n'ont pas été graves, il n'y a même pas eu d'accrochage, mais ça aurait très bien pu faire un accrochage, Raikkonen aurait très bien pu décoller sur la Red Bull et s'encastrer dans un mur en face, enfin, ça aurait pu être très grave, et c'est un comportement qu'il ne faut pas avoir, et il l'a fait 2 fois en plus, donc je suis assez remonté, donc Verstappen pas bien, et puis les commissaires qui n'enquêtent même pas sur l'incident.
Déjà, moi, il y a deux, hein, par rapport à la défense de Verstappen, il y a déjà deux cas. Le premier cas où il est clairement, on va dire, dans l'illégalité parce qu'il zigzague, on va dire. Et il y a le deuxième cas où il se décale de façon, il se décale très tardivement. Ça, j'ai aucun problème avec le fait de se décaler très tardivement parce qu'il a le droit de le faire. Mais le fait de zigzaguer, de faire des queues de poisson comme ça, c'est interdit. Et ce qui m'a énervé le plus, C'est pas ça. Moi, c'est l'inaction des commissaires. Ils ont laissé la course se faire. Il n'y a même pas eu d'enquête, ni rien. Ils ont laissé la course se faire alors qu'on voyait très clairement, en fait, que la première manœuvre de défense de Verstappen, elle est complètement interdite. Autant la deuxième, moi, j'ai aucun problème. Hein. Le mec, il se décale quand il veut. De toute façon, il se décale une fois. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Autant la première manœuvre est vraiment, vraiment mauvaise. Et je comprends pas pourquoi la FIA, les commissaires n'ont rien fait. Charlie Whiting, il devait peut-être boire encore un mojito à ce moment-là. Mais je sais pas, j'ai aucune idée. Vraiment, ça me dépasse totalement.
Est-ce que c'est quelque chose qui est habituellement sanctionné?
Ah non, normalement, la règle, c'est là où aussi c'est un peu dommageable, c'est que légalement, il n'est pas sanctionnable. Mais pour moi, il faut revoir le règlement, parce que c'est quelque chose qui ne doit pas se voir, ni en Formule 1, ni ailleurs, c'est dangereux.
Non mais moi, je propose un contrôle anti-drogue des commissaires. Parce que je sais pas ce qu'ils ont fumé ou ce qu'ils sont sniffés ce week-end, mais ça, c'est efficace.
Et c'est vrai que, bon, je pense qu'on parle de quelque chose dont on pourrait parler plus tard, mais à la limite, c'est pas tellement le fait de pas sanctionner, enfin,
oui,
pas
après,
ça qui pose. À la limite, au point où on en est, il y a des cas dans lesquels, effectivement, dans les faits, ça serait sanctionnable parce que c'est pas vraiment dans l'esprit, mais en pratique, ça n'est pas sanctionné. Mais c'est que, c'est-à-dire, mais même pas de saisie, même quand, pour le cas de la pole de Rosberg, ils ont fait l'enquête. Mais, dans un sens, ils avaient déjà fait l'enquête avant, et le fait qu'il y ait eu enquête officielle, ils ont juste, d'ailleurs, la justification, elle est fantastique. La télémétrie prouve que le pilote a ralenti. Voilà, bon, c'est sûr que, significativement, pardon. C'est quand même un peu bizarre. On demande pas aux commissaires d'être des cow-boys et qui frappent dans tous les coins, même les plus petites infractions, et que ce soit lourdement sanctionné, mais bon, allez, on pourrait quand même s'interroger, quoi, juste vérifier. Une enquête, c'est pas synonyme forcément de sanction, c'est synonyme d'enquête.
Exactement, hein. Exactement. Hein.
Je pense que ça aurait été pire, parce que enquêter, ça veut dire vraiment revoir ce qui s'est passé avec un ralenti, etc. Enfin, ça aurait été encore pire de ne pas sanctionner de ce point de vue-là, quoi. Parce qu'il y a un règlement, même si on pourra me dire que ça fait des années que c'est pas sanctionné. Et alors, est-ce que ça rend le truc, ça rend la démarche correcte? Non. Enfin, s'il y a un règlement, c'est pour l'appliquer.
Après, c'est toujours pareil. C'est la force de l'habitude. C'est la force de la coutume sur les règles écrites. Ah. C'est-à-dire que ça supplante la règle véritable. En tout cas, l'interprétation qu'on en fait supplante l'esprit de la règle. Ah. Comme les drapeaux jaunes. Hein. On est bien dans un cas similaire, je trouve.
Ah ben, elles sont géniales. Pas tout à fait. Vraiment, waouh. Bon, c'est les règles, hein, le problème, hein, en réalité. Et leur application... qui varie en fonction des commissaires, mais bon, ça fait des années que ça dure, donc visiblement, ok, tout va bien.
Ce week-end, on a quand même beaucoup gueulé sur l'aspect sécuritaire. Bon, on y reviendra sur Rosberg, je trouve que c'était un peu exagéré. Mais sur le cas de Verstappen, encore une fois, là, y en a qui s'offusquent pas plus que ça, parce que y a pas eu de conséquences. Mais très franchement, on passe pas loin du tout d'une conséquence qui aurait pu être dramatique.
Ah oui, parce que
et c'est ça que je trouve pénible, c'est que à chaque fois, comme il y a pas de quand il y a pas de conséquences dramatiques, on ne fait quasiment rien.
Ah mais non, mais sur l'aspect sécuritaire, la FIA n'agit que a posteriori, ne fait jamais de prévention.
Voilà, préfère guérir que prévenir.
Ah oui, sauf que c'est dans le cas de la FIA, c'est même pas guérir, c'est il faut opérer quoi.
C'est ça.
Mais moi, c'est surtout dans la défense de Verstappen, je l'ai trouvé. J'avais un peu le sentiment que du coup, il était un peu en panique. Hein. Que du coup, c'est un peu ça, parce qu'après, c'est quand même un très bon pilote qui nous a déjà prouvé par le passé en faisant des manœuvres absolument fantastiques. Et là, on a vu que il savait pas trop comment du coup arriver à défendre.
Bah, tu vois, je suis pas. J'ai l'avis exactement inverse. Moi, pour moi, je trouve que c'est typiquement une défense de vieux briscard, de mec qui sait très bien ce qu'il fait. Bon, moi, je me prononce pas vraiment sur ce cas-là, parce que pour moi, c'est pas si clair.
Oui, c'est pas
la clarté
évident.
Du mot. c'est pas évident, c'est pas un truc dégueulasse comme ont eu l'habitude de faire certains pilotes. Schumacher qui a été un peu l'instigateur de cette règle entre guillemets, c'est-à-dire de pas défendre sur plusieurs lignes machin, ou même plus récemment Rosberg qui l'avait beaucoup fait saison 2011-2012 je pense, à Bahreïn notamment. C'est pas aussi dégueulasse que ça, c'est beaucoup plus fin, c'est un changement un petit peu, c'est un changement mais fluide, tu sais, c'est pas un gros écart suivi d'un gros écart, c'est un petit décalage suivi d'un petit décalage. Dans l'absolu, je vais un petit peu revenir sur ce qu'on avait dit sur le cas Alonso Gutiérrez du début de saison. Moi je m'interrogeais non pas sur ce qu'avait fait Gutiérrez mais plutôt à la vitesse à laquelle arrivait Alonso. Je suis pas loin de me poser la même question sur Raikkonen. Raikkonen arrive quand même très vite. Je suis pas sûr que s'il y a pas un Verstappen dans le virage devant lui, je suis pas sûr que le virage il le prenne de manière très correcte dans l'absolu. Voilà, je pense qu'il faut aussi un peu tempérer sur cette manœuvre-là. Pour moi, c'est pas criant. C'est-à-dire que il y a des cas qui m'apparaissent bien plus pénalisables, mais là, à mon avis, il a joué très finement. Et je l'ai trouvé plutôt bon. De toute façon, dans sa défense, il l'a été, évidemment. Mais bon, après, sur le Hungaroring, il n'y a pas non plus besoin d'être un maître de la défense pour résister. Mais pour le coup, lui, il y avait vraiment un vrai déficit de vitesse, et ça s'est vu, parce que après, quand Raikkonen a son aileron cassé, il le suit assez facilement, malgré tout. Donc ça prouve qu'il est quand même...
Non, je ne suis pas d'accord.
En tout cas, pour quelqu'un qui a un aileron cassé, donc un problème d'appui à l'avant... Il est quand même proche.
Il est proche, mais ça, c'est grâce aux pneus.
Pour ça, c'est ce que je te dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment un véritable déficit de vitesse pour Verstappen, notamment du fait des pneus, et qui s'est confirmé, par le fait aussi qu'à mon sens, la Ferrari était meilleure en course que la Red Bull. Il y avait vraiment un vrai déficit de vitesse, et lui a plutôt très bien géré ça, évidemment. La touchette aurait pu très mal se terminer pour lui parce qu'il ne doit pas passer très loin de la crevaison. Mais c'est... moi, au contraire, j'ai trouvé plutôt serein sur cette défense.
J'ai le droit de dire,
je l'ai trouvé hésitant sur la première défense. Je trouve.
J'ai le droit de dire que c'est la première fois que je regrette qu'un pneu Pirelli n'est pas crevé.
Tu peux.
disons que c'est surtout, on est tellement l'habitude de voir que dès qu'il y a contact et le rond pneu, que le pneu il perd. Disons que je me suis dit, vu le mouvement sur le moment, je me suis dit, c'est ballot, hein. Voilà. Après, juste ouais. Comme toi, Fab, avec le recul, c'est pas forcément évident. De toute façon, si on empêche aussi systématiquement les pilotes de défendre, ça va vite se faire chier, hein.
Ah non, mais on peut défendre, mais là, je trouve qu'il défend beaucoup trop tardivement. Non, moi, je suis désolé, je ne cautionne pas ce geste. C'est peut-être joué finement, mais ça n'en est pas moins vicieux et on passe tout près d'une possible catastrophe.
Ah oui, mais ça, je ne le cautionne pas, mais je ne l'encourage pas non plus.
Oui, ça revient au même.
Non, je suis ni pour ni contre, on va dire. C'est qu'entre deux chaises.
Tu es normand.
Je suis tiède. C'est ni oui ni non, voilà. C'est...
Ben justement, alors c'est parfait, oui, c'est vraiment... Incroyable, mais quel lancement! En parlant de tiède, justement, on en a fini avec le quintet moins, et on va passer au fameux quintet mou.
Le quintet chamallow,
comme vous voulez. C'est-à-dire les pilotes qui ne font ni partie du quintet moins, ni partie du quintet plus. Alors je vais vous les citer, comme d'habitude, je vous les cite rapidement, et puis vous vous arrêtez sur ceux qui vous intéressent. On retrouve donc Magnussen avec un score de moins 14 que des votes négatifs, Ericsson avec moins 14 que des votes négatifs aussi, Grosjean moins 9 avec 2 votes positifs, 2 votes négatifs, Arianto moins 7 avec 1 vote positif, 8 votes négatifs, Bottas moins 4, 1 vote positif, 5 votes négatifs, Perez moins 3, 0 vote positif, 3 votes négatifs, pardon, Button moins 1, 5 votes positifs, 5 votes négatifs. Nasser, moins 1, 0 positif, 1 négatif. Ensuite, on passe à Verlaine, qui lui, visiblement, n'intéressait personne. 0 positif, 0 négatif. Un score de 0, donc. Et maintenant, le positif. Alors, écoutez bien les chiffres, parce que là, pour le coup, il y a vraiment un gap. Vous l'écouterez tout à l'heure avec le Quintet Plus. On a Hülkenberg qui a un point avec deux votes positifs, un vote négatif. On a Rosberg qui a deux points avec 17 votes positifs, 15 votes négatifs. Et Vettel qui a 5 points avec 12 votes positifs et 7 votes négatifs. Messieurs, est-ce que dans ces pilotes, il y en a un ou deux sur lesquels vous voulez revenir ?
Button. J'aime bien revenir sur Button. Alors déjà, il faudrait m'expliquer comment il a moins 1 en ayant plus 5 et moins 5, mais c'est ce que tu as dit. Hein.
Non, plus 5, moins 6, pardon.
Ah, d'accord, je comprends mieux. Le cas Button, qui est quand même symptomatique de la... Je ne sais pas comment le qualifier, ce règlement, franchement, à un moment donné. Je trouve... Il y a clairement un problème. Ouais, c'est-à-dire que stupide, c'est pas assez violent comme terme, mais comme je vais rester poli à l'antenne, je vais pas le qualifier. Button a clairement un problème. Il est obligé, il laisse passer toutes les voitures, il se retrouve dernier et tout. Bon, après, il le laisse en piste, j'ai pas compris. D'apparemment, Jenson non plus.
Non, mais les moteurs Honda sont connus.
Ah, c'est pas le moteur.
Fiable.
Ah,
c'est
non.
Pour ça.
Non. Voilà, c'est pour une fois, mettons pas sur le dos de Honda le problème de la pédale de frein.
Ah non, mais je parle pas de ça. Je parlais du fait de laisser Button sur la piste alors qu'il était tout dernier, il avait plus rien à gagner, quoi. Autant en garder un moteur.
Et surtout avec des freins dans lesquels il n'avait plus du tout confiance. Mais c'est surtout que du coup, il y a la radio, il se prend une sanction. À un moment donné.
Alors ça, c'est on sait pas vraiment. Enfin, moi, j'ai pas vraiment compris pourquoi en fait.
Mais parce qu'ils ont
à la discussion qu'il y a eu en fait.
Parce que c'est suite à la nouvelle règle, ils lui ont donné un truc qui apparemment pouvait lui permettre de... une aide au pilotage, voilà. Ils lui ont donné une aide au pilotage, et donc il était censé... ou c'est parce qu'ils lui ont signalé un problème, il était censé repasser par les stands. Il l'a pas fait, ils lui ont dit de rester en truc, donc il s'est pris une pénalité. Mais à un moment donné, il y a la règle, il y a l'esprit de la règle. Le mec qui passe, qui doit laisser passer, je sais pas, mais 10 ou 15 voitures... 10 voitures, on va dire, parce qu'il a un problème, il est suffisamment emmerdé, tu n'es pas obligé de passer par les stands. Si.
Si, alors, si. C'est vrai que, juste moi, Bouchard, visiblement, on n'a pas entendu à la radio le message incriminé, parce que c'est vrai que ça a beaucoup tourné aussi autour de la question de la sécurité, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un problème effectivement avec la pédale de frein. On pouvait présumer. Avec les communications radio qu'on avait, que ça, c'était lié à ça, donc que ça, a priori, rentrait dans le cadre de la sécurité. Mais visiblement, il a été pénalisé parce qu'on lui a demandé c'est Race Car Engineering sur Twitter qui dit ça, retweeté par Gus Gus notamment, qui disait qu'on lui avait demandé de changer un réglage sur le volant et que c'était cette manœuvre-là cette instruction-là, pardon, qui avait été pénalisée.
Oui, mais il n'y a pas gagné un avantage. Non mais oui, je suis d'accord, mais...
Non, mais après... Voilà,
après, je suis d'accord. Après, je suis le premier à avoir dit ce week-end qu'il y a une règle, il faut la respecter, donc...
Oui, non, mais... On peut discuter de la règle, on est d'accord sur ce coup-là, mais...
Bon, il faut dire que cette règle commence à devenir ça devient vraiment n'importe quoi, parce qu'on ne sait plus où on en est. Même les mecs en F1, ils ne savent plus du tout où ils en sont.
Mais vous voyez, je voulais en faire le drive-thru, mais je vais le faire maintenant. Moi, ce qui me choque, c'est sur le même week-end, on a... donc, la pénalité de Button, c'est quand même un drive-thru pour une mauvaise instruction au volant qu'il n'aurait pas dû recevoir, à la radio qu'il n'aurait pas dû recevoir. Donc, un drive-thru, allez, je vais être gentil, c'est 15-20 secondes. C'est 15-20 secondes de pénalité. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, ces 15-20 secondes-là pour un problème qui n'est ni de la sécurité, à mon sens, hein, je vais dire ça de manière très, ça peut prêter à discussion, mais pour moi c'est de l'affichage. C'est une règle d'affichage, c'est-à-dire qu'on dit regardez, vous avez vu, on leur interdit de parler, on leur interdit d'avoir trop d'instructions. C'est basé, moi pour moi, la justification de ces limitations de communication radio, c'est très sincèrement, en droit, des fois, on cherche des fondements à des décisions. C'est des fondements, ça tient sur un papier à cigarette. Hein. Là, pour moi, c'est pareil. Il s'appuie sur une règle qui, effectivement, est dans le règlement, qui dit que le pilote doit piloter sa voiture sans aide. On peut tout mettre dedans. Hein. Dans l'absolu, on peut dire que le pilote doit lui-même changer ses pneus au stand. Ou voilà. Hein, on peut tout mettre sur ce fondement-là. Et sur ce fondement-là, qui est de l'affichage, parce qu'il n'y a aucune raison, qu'on me dise pas qu'il y ait des raisons techniques derrière cette limitation. La seule raison de la limitation, c'est parce que on a décidé que depuis quelque temps, c'est plus supportable qu'il y ait trop de messages à la radio, qu'on dise aux pilotes ceci, cela, qu'on leur dise quoi faire. Bon, très bien, très bien. Mais dans ce cas-là, à un moment donné, si c'est que de l'affichage, vous vous rendez compte le décalage des pénalités entre 15-20 secondes pour avoir donné une instruction à la radio et les 5 secondes qu'un pilote va se prendre pour ignorer les drapeaux bleus, qui est quand même une règle de course de base, les 10 secondes maximum qu'un pilote peut se prendre en cas de collision, quand c'est pas 5, les amendes qu'on se prend pour les excès de vitesse, les 3 places reculées sur la grille quand on fait un unsafe release, quand les unsafe release sont sanctionnés et sont repérés, alors que par exemple on sort d'un Grand Prix de Grande-Bretagne où à un moment c'est de la foire d'empoigne dans les stands, il y en a partout, il y a des voitures qui se roulent à côté les unes des autres, tout le monde, tous les mécaniciens sont dans les stands parce que c'est le moment où les pilotes changent de pneus pour passer en intermédiaire, c'est n'importe quoi, aucune enquête sur ce plan-là, et par contre, sur la question des radios, bah, tout de suite, on est intransigeant, on met 15 ou 20 secondes de pénalité. Moi, je trouve ça, mais d'aberration. Moi, pour moi, ça, c'est l'exemple type que la Formule 1 marche à l'envers. Et je dis pas ça pour aller dans le sens du vent, mais pour le coup, elle marche vraiment à l'envers parce que c'est une règle d'affichage. C'est une règle de comment dire, c'est quelque chose pour dire aux gens, voyez, hein, on les aide pas tellement à la radio, ils ont plus le droit d'être aidés. Alors que y a aucun fondement dans l'absolu qui justifie un tel décalage des pénalités. Enfin, moi, ça me semble aberrant, et surtout quand on sait la polémique qu'il y a eu autour des drapeaux jaunes la veille. Enfin, là, pour moi, là, c'est typiquement l'exemple. On dit toujours, la F1, elle court après son passé, et en faisant ça, elle en oublie les problématiques essentielles qui sont, enfin, la sécurité, quoi, ou même les règles de base de la course automobile. Enfin, c'est affligeant, quoi. Pour moi, ça, c'est affligeant. Je suis pas contre le fait qu'on fasse de la régulation sur les messages radio. Dire pourquoi pas, si on veut. Mais à ce moment-là, faut quand même être un petit peu réaliste sur la manière dont on les sanctionne, quoi. Ça n'a aucun sens. Ou alors, à ce moment-là, il faut décupler les sanctions pour la sécurité. Quelqu'un qui regarde ça, qui regarde les deux, qui te dit, alors, donc, Rosberg, il a perdu 4 ou 5 dixièmes dans un virage, c'était certes sous double drapeau jaune, donc bon, ça passe. Par contre, Button, cet enfoiré, il a eu des messages radio pour l'aider à piloter sa voiture. Allez, boum, c'est 15-20 secondes. Je sais bien, je compare deux choses qui sont différentes, mais je suis désolé, tu ne peux pas accepter que sur un plan sécuritaire, ça soit moins sanctionné que sur le plan purement, de limitation de messages radio. Ça n'a aucun sens, quoi.
Pardon. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, ça fait un bon moment que ça dure où il n'y a pas vraiment de cohérence et que il n'y a pas de priorité dans les sanctions et dans la sévérité qu'il faut appliquer. Il n'y a pas les bonnes priorités. Même si je suis pas d'accord pour le Carlsberg, on y reviendra. Mais oui, clairement, c'est vrai que il y a des moments où la sécurité mériterait des pénalités. L'infraction à la sécurité mériterait beaucoup plus que ce qu'a reçu Button, qui n'avait rien de dangereux. Après, je pense qu'il y a aussi le côté sportif qui rentre en jeu, mais je suis pas totalement convaincu.
Messieurs, au-delà de Button, vous avez d'autres pilotes? Vous voulez que je vous les cite?
Vas-y. Oui, parce que...
Magnussen, quelque chose à dire?
Non.
Non.
Suivant.
Ericsson, quelque chose à dire?
Non plus.
Suivant.
Gronas, bon, suivant.
On va passer, voilà.
De toute façon, il n'y a rien à dire sur le milieu du peloton.
Voilà, alors peut-être quand même, peut-être se pencher sur nos amis Vettel et Rosberg, qui sont dans le quintet mou.
Ah oui.
Ouais. Ben, Vettel, je comprends pas, parce que...
Il a pas fait une course de dingue non plus. Hein.
Bon, enfin, il a fait quand même une bonne course.
Même Rosberg, hein. Rosberg...
Il a pas fait une course,
il fait pas une course de fou, mais moi je le mettrais pas dans mes quintets plus non plus, donc
non,
pour moi il a sa place, Rosberg.
Oui, c'est vrai qu'il a la porte du quintet plus,
c'est ça.
Il a fait une course solide sans qu'elle soit brillante.
Voilà.
De toute façon, depuis 2 ans et demi, à partir du moment où un pilote Mercedes gagne, l'autre est rarement dans le quintet plus, et c'est assez logique.
Bah, ça dépend. Enfin oui, parce que de toute façon, généralement c'est Hamilton qui gagne, donc... Oui.
Non, mais sans parler de ça, que l'un ou l'autre, tu mets rarement les deux Mercedes dans le quintet plus, parce qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre sur le week-end, ou sur la course.
Ah. Oui et non, enfin, c'est un peu compliqué avec cette année. Donc.
Alors pour le cas Rosberg, je sais pas si c'est lié à la Mercedes sur ce tracé ou quoi, mais on voyait que, notamment par exemple, quand Hamilton a été clairement gêné par Gutiérrez, Rosberg est revenu à une demi-seconde. Le tour d'après, juste après, donc un tour après qu'ils aient doublé Gutiérrez, on voit l'écart est monté à 1,5 seconde. Je trouve ça hallucinant. Et j'ai quand même du mal à croire que le. Et j'ai ouais non mais c'est et on... par contre on me fera pas croire que Hamilton a un talent beaucoup plus développé que celui de Rosberg sur la même voiture. Donc il y a c'est à se demander même si chez les ingénieurs ils ont pas pour ordre de faire des voitures qui peuvent pas se suivre chez Mercedes.
Bah déjà ils font des voitures très pointues aérodynamiquement, donc forcément dès qu'elle suit une autre voiture c'est foutu quoi. Ouais.
Donc moi je mettrai pas ça sur le talent de parce qu'après on a vu tout le durant tout le week-end quand même que quand au chrono ils étaient très très proches les deux et c'est donc je blâmerai pas Rosberg de pas avoir pu vraiment se battre avec Hamilton on va dire roue contre roue quoi.
Oui non mais voilà c'est
et pourtant façon, et pourtant il a bien oui. Essayé en début de course on voyait qui arrivait à maintenir un faible écart et puis je pense que les pneus n'ont pas tenu et il a dû lâcher quoi.
Ben c'est le problème de la Mercedes depuis 2 ans, c'est le problème des pneus depuis tout temps lorsqu'on suit une autre voiture. Mais non, il était dans le rythme, mais bon voilà, de toute façon.
Sauf que j'ai vraiment
l'impression. Fallait pas louper son départ.
Ouais, sauf que j'ai vraiment l'impression que le problème était exacerbé sur cette course.
Est-ce que les pneus ont été vraiment un problème? Parce que franchement,
ça l'est toujours quand tu suis une voiture de toute
oui,
manière.
Oui, non, mais d'accord, mais enfin, oui, mais après, bon, on est bien conscient du fait que je pense que Hamilton n'était pas au rythme maximum et que je pense pas que Rosberg avait. Enfin, je vois ce que vous voulez dire. Je suis conscient de ce que vous voulez dire, mais j'ai pas le sentiment que les pneus étaient un problème. Je crois que c'est surtout le tracé. Enfin, voilà.
Oui, mais aussi, mais il y a plusieurs paramètres. De toute façon, oui, forcément, comme on est en plus de facto sur un circuit où dépasser est très difficile, voilà, il n'y a pas de possibilité de se placer à côté, par exemple, de se rapprocher et de se placer à côté s'il avait été très proche. Non, sur ce circuit, c'est quasiment impossible. Donc, t'es condamné à rester derrière et
ouais, voilà,
t'as subi.
Après, quand je parlais des pneus, c'est je disais, Rosberg, au début de course, il a essayé de suivre Hamilton tant bien que mal en étant juste derrière. Donc, il a compensé la perte de grip aérodynamique par du grip pneumatique, mécanique. Et du coup, ça, il a trop tiré sur ses pneus et du coup, il pouvait pas continuer comme ça très longtemps. C'est une limite physique du pneu, c'est pas un problème des pneus quoi, c'est juste que ben il pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait, je pense.
Mais après voilà, c'est le départ. Enfin, c'est là pour le coup, c'est franchement ballot parce qu'il part du côté propre et il arrive à se faire dépasser. Mauvais temps de réaction ou mauvaise manipulation de. Des boutons, je sais pas, mais
le
ça
départ,
coûte cher.
Le départ de Lewis était particulièrement, j'ai trouvé, en tout cas bien meilleur que Rosberg. En
ah
tout
oui,
cas, sur l'impulsion. Sur
en
l'impulsion
tout cas, ouais, c'est ça, voilà.
Je pense que si on mesure le temps de réaction de Hamilton sur le départ, parce que j'ai même cru presque qu'il avait fait un faux départ.
Oui, j'ai cru ça aussi, oui.
Ah, oui, il a un temps de réaction beaucoup plus rapide que pour Rosberg. En fait, c'est les deux extrêmes. C'est qu'Hamilton a eu un très bon temps de réaction et Rosberg a eu un vraiment moyen. On voit que derrière, même Ricardo arrive à la hauteur de Rosberg.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour Rosberg, oui, c'est un gâchis parce que ici en Hungaroring, tu pars en pole. Si t'as pas une course, si t'as une course normale. Voilà, tu gagnes avec cette Mercedes. Donc c'est il rate clairement, il manque le coche.
Et donc Vettel pas de bon Vettel, je pense que c'est le meilleur départ des 5 premiers qui d'ailleurs était tout seul un petit peu parce que derrière ça s'est mal envolé, mais c'est dommage pour lui qu'il y avait des voitures devant quoi finalement.
Oui, ah oui. Oui, parce que
ils étaient presque tous les 5 pas sur la même ligne, mais...
Oui, c'est vrai, il se tenait
bien.
Oui, parce qu'on a vu les Red Bull partir un peu mieux que les Mercedes, parce qu'ils étaient vraiment aux fesses au premier freinage. Et par contre, Vettel, on voit que derrière, il est presque un peu à pousser les Red Bull devant lui.
Ouais.
C'est dommage qu'il n'ait pas une opportunité, une fenêtre, un petit trou pour s'infiltrer, semer la zizanie. Enfin. Mais après, la Ferrari, très bon rythme en course. Hein.
Ah oui, très bonne utilisation du pneu.
Ah ouais.
Messieurs, vu que vous n'avez pas grand-chose à dire, je vais tout de suite poser la question maintenant. Sur ce quintet mou, est-ce que vous pensez qu'il y a un pilote qui mériterait un point de plus ou un point de moins?
Non.
Massa, moi j'aurais mis.
Massa, tu aurais mis.
Mais il est déjà le quintet moins.
Tu aurais mis plus 10, c'est
moins,
ça
lui. Il est au quintet moins.
Mais non. Ben non, mais le quintet moins ne rapporte plus de points
oui,
négatifs.
Oui, on a le droit de mettre, des plus ou des moins au pilote du quintet moins.
On manquerait plus que
donc,
ça.
Donc moi j'aurais mis un moins 1 à Massa.
Ah non, mais je bloque tout de suite. C'est dur. Non, c'est dur.
Ah, déjà, il est dans le quintet moins, c'est ça, c'est
déjà, il est premier, t'en rends compte. Ça fait beaucoup.
Mais justement, le quintet moins ne rapporte plus de points négatifs. Il faut
compenser. Oui, mais dans un sens, heureusement, parce que franchement, c'est dur de lui mettre autant. Bon, c'est sûr qu'il s'est passé avec la course de sa vie, mais bon, il a eu un problème, c'est quand même difficile de lui mettre. Il y a eu deux problèmes puisqu'il avait une Williams aussi, ça fait deux problèmes. Et même trois puisqu'il a chaussé les médiums, donc il avait quand même trois problèmes dans la même course, moi je trouve ça difficile.
Et un 4, ils ont pas stratège chez Williams.
Oh.
Et 5, c'est un circuit qui où il a du mal à avoir du ressort.
Oh, je vois que monsieur a déjà son fait marquant, c'est fait.
Oh, pas du tout.
Bon, bah messieurs... Donc pas de points positifs, pas de points négatifs, hein, j'ai l'impression.
Non.
On est d'accord?
Ouais.
Et ben voilà, c'est bien. Ça ne bouge pas le classement que j'avais déjà préparé. Et ben on peut passer donc au quintet plus. Quintet plus, donc les pilotes qui ont inscrit le plus de points. Et on va commencer par le cinquième du quintet plus. C'est un pilote de la filière Red Bull, on a un petit peu parlé tout à l'heure, longuement. C'est Carlos Sainz qui a inscrit 24 points, 25 votes positifs et 1 vote négatif. Carlos Sainz qui a donc commencé la course au 6e rang et qui l'a terminé 8e.
Résultat, on va dire, inespéré avant les qualifs.
Moi perso, je l'ai. Enfin, c'est peut-être la réalisation, mais je ne l'ai pas vu. Enfin, je l'ai.
Non, on l'a pas vu. Hein.
Non, on l'a pas vu.
On l'a pas vu. Pas de la dire que c'est une course à la Rosberg. Il n'y a qu'un pas que je ne ferai pas.
Bravo.
Je le franchis. Je le franchis parce que clairement, bon, 6e sur la grille, c'est plus lié aux conditions des qualifications qu'à autre chose. Vu la Toro Rosso, parce que même si elle est pas trop mal, faut pas non plus. Mais ouais, 8e, c'est. Ben, quand tu vois que Kiat fait 16e, c'est. Non, très bonne
oui,
course.
Oui, c'est,
hein,
c'est clair que la comparaison avec Viat, elle est flatteuse.
Ah oui, ça, c'est sûr que dans ce sens-là.
Et moi, je reste persuadé que le départ de Verstappen lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'il n'était pas à ce niveau-là quand il était coéquipier de Verstappen. Et franchement, je pense que ça l'a libéré d'un poids. Vraiment, il est toujours là. Il est toujours dans le. Très souvent dans le top 10, en tout cas, c'est.
Ça montre
quand
même.
On sent une sorte de confiance.
Ça montre quand même que, je sais pas, c'est peut-être lié à Red Bull, mais quand t'es le pilote, entre guillemets, numéro 1, ça te fait du. C'est pas facile hein, pour le numéro 2 finalement. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé vraiment. En Espagne, il a marqué 28 points, en fait, je crois. 28 ou 26, depuis le Grand Prix, depuis le départ de Verstappen, quoi. Dingue.
Bah, il était face à un phénomène aussi.
Oui, mais bon, il pouvait quand même entrer dans les points, etc. quoi.
Oh, il n'était pas. Attends,
il n'était
enfin,
pas nul.
Pas
j'ai pas dit ça.
J'ai pas dit, j'ai pas dit qu'il était nul. Attention. Mais
ça date pas du départ de Verstappen, quoi. Enfin.
Ah, pour moi.
Mais même si regarde bien depuis le départ de Verstappen.
Oui.
Quand même,
d'accord, mais.
Il a raté le top 10 une fois depuis.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, l'année dernière, si t'enlèves sa grosse malchance, il fait quand même. Il est pas mal du tout, quoi. Je dis pas qu'il fait jeu égal avec Verstappen, mais bon,
mais
il n'y a pas autant d'écart que ce qu'on a bien voulu dire en fin d'année, quoi.
C'est pas qu'il a dit ça, par contre, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de pannes l'année dernière, mais moi, à la fin de l'année dernière, je pouvais pas le juger, en fait. J'arrivais pas à le juger parce qu'il y avait trop de soucis.
Ah non, mais je le jugeais par rapport à Verstappen.
Non, mais je parle à ceux qui le jugent, en fait. Ceux qui disent, ouais, il est surclassé par Verstappen.
Ah ben, enfin, moi, désolé, mais sans parler de surclassement, il était quand même derrière Verstappen assez régulièrement, et sans compter les problèmes techniques, hein, même les courses où ils finissaient tous les deux dans les où il n'y avait pas de problème, enfin, où ils finissaient tous les deux la course et où il n'y avait pas de soucis, Verstappen était souvent devant Sainz et effectuait des courses plus abouties que Sainz. Maintenant, Verstappen, on sait que c'est un phénomène. Mais j'ai trouvé Sainz un peu moins bien et je trouve que Sainz s'est beaucoup amélioré depuis quelques Grands Prix et ça correspond au départ de Verstappen. J'ai quand même l'impression qu'au niveau de la confiance, ça a aussi joué un rôle.
Il a dit
que ça changeait quelque chose dans l'équipe au niveau de l'ambiance et tout. Voilà, je pense que ça l'a libéré d'un poids et que là il roule plus relâché et que il prouve qu'il est vraiment un très bon pilote.
Ah, c'est vrai qu'après, sur sa course, plus précisément, il perd une place sur Alonso au départ. Et il est derrière lui, il est plutôt proche de lui, environ jusqu'à la fin du premier tiers de course. Et puis après, progressivement, il perd de plus en plus de terrain. Et pour finalement terminer, je crois, à 6 ou 7 secondes. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, quoi.
Juste pour terminer, franchement, quand on voyait le début du week-end des Toro Rosso, 4 points à la régulière, c'est presque inespéré. Merci les qualifs qui ont aussi redistribué les cartes, et Sainz en a parfaitement tiré son épingle du jeu. Et voilà, c'est aussi ça, un grand pilote, c'est savoir tirer profit de certaines opportunités quand ça va moins bien.
Très bien, messieurs, alors. Je vous propose d'avancer dans le Quintet Plus avec le quatrième de notre Quintet Plus. C'est l'autre pilote Mercedes, c'est Lewis Hamilton, donc le vainqueur de la course. 41 points avec 47 votes positifs, 47 votes positifs pardon, et 6 votes négatifs. Donc, il remporte ce Grand Prix. C'est un petit événement parce que les Mercedes, depuis leur époque de domination, c'était la seule course qui leur avait échappé.
Oui. Et d'ailleurs, c'est Hamilton est maintenant recordman du nombre de victoires en Hongrie. C'est une très bonne course. De toute façon, c'est un départ franchement magnifique. Parce que voilà, on part quand même du côté sale. On sait à quel point ça joue en Hongrie, même si la piste avait été nettoyée la veille. Et le côté était quand même très sale par rapport au côté propre. Et franchement, après, bon, il a géré sa course vraiment tranquillement. Je pense qu'il y a aussi la confiance a aidé aussi. Il est sur une très bonne dynamique et donc il s'en est servi au départ, au premier virage, tranquillement, quoi.
Moi, je trouve ça un peu dur. La quatrième place, il mériterait quand même d'être plus haut, quoi. Il a globalement super bien géré la course. Moi, j'ai rien à lui reprocher. Il a peut-être fait une erreur, une petite erreur où Rosberg a pu revenir sur lui. Il a contrôlé la course, il a contrôlé le rythme de la course. Donc, moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher, en fait. Donc, je le mettrais même, si je vote jamais pour ça, mais je le mettrais même pilote du jour. Donc, il n'y a aucun souci à sa course, hein, à part cette petite erreur.
Moi, je pense qu'il y en a qui doivent lui reprocher d'avoir freiné pour mettre Ricardo dans les pattes de Rosberg, mais.
Ce serait stupide, parce que si Ricardo revient sur Rosberg, il revient sur Hamilton. Donc, enfin, pour moi,
j'ai du mal à croire qu'en course il puisse avoir les informations et le recul nécessaires pour pouvoir faire ce genre de manœuvre.
C'est interdit, non?
C'est impossible.
Non, mais Mercedes.
Non, parce qu'ils ont le droit de filer.
Mercedes lui a présenté la situation, lui a dit si tu ne hausses pas ton rythme, on va être obligé de faire rentrer Rosberg le premier. Parce que sinon, tu vas nous coûter le doublé. En gros, c'était ça le. Je résume un petit peu, voilà, je grossis un petit peu le trait, mais c'est ça qu'on lui dit à la radio. Donc ça, visiblement, c'est autorisé. Donc à partir de ce moment-là, il hausse un peu, il hausse le rythme. Les deux haussent le rythme et se dégagent de Ricciardo qui, bon, de toute façon, n'était pas vraiment une menace en réalité. Ça aurait été une menace si le rythme des, enfin, si les Mercedes n'avaient pas haussé le rythme. Mais bon, on a vu qu'il n'y avait pas tellement de problèmes à le faire, quoi.
D'ailleurs, enfin, juste une petite parenthèse. Est-ce que Mercedes a déjà gagné une course au SAV cette année?
Je ne crois pas. Mais je vais vérifier.
Ça montre.
Mercedes a gagné en 2013 avec Camille sur ce circuit. Mais depuis.
Non. Oui, mais. Non, mais
il parle au classement du SAV.
Aucun.
Alors, revenons sur les vainqueurs. Australie, c'était Grosjean. Bahreïn, c'était Grosjean. Chine, c'était Ricciardo. Russie, c'était Alonso. Espagne, c'était Verstappen, évidemment. Monaco, c'était Ricciardo. Canada, c'était Bottas. C'est Bottas au Canada, tiens. C'est... Ah, Bottas a gagné.
Ah ouais.
Pérez en Europe. c'est incroyable. Verstappen en Autriche, en Grande-Bretagne. Verstappen aussi, bah, dis donc. Et ici, bah, on verra tout à l'heure. Donc non, effectivement. Mais c'est je crois que le mode de vote n'y est pas pour... n'y est pas étranger parce que ça a tendance à privilégier les
pertes
petits.
Aux vainqueurs.
Donc voilà, pour relativiser un petit peu. Enfin voilà, non, je doute qu'on aura un vainqueur Mercedes cette année.
Après il y a une espèce de lassitude entourant la domination de Mercedes. Voilà, du coup on préfère voir là où on a envie de voir un peu de plaisir. Quoi. Donc forcément ça va jouer sur des grosses pertes. Vous mettre tout le temps, enfin sans se baser que sur les vainqueurs, si le pilote du jour ou le vainqueur du SAV, ça sera Hamilton ou Rosberg. Bon. Après, je peux comprendre, moi. Ça, je trouve ça bizarre, mais je peux comprendre quand même. Mais je trouve quand même que malgré tout, quatrième, ça reste super faible comme classement par rapport à d'autres pilotes comme au pif, Raikkonen.
Non, mais bien sûr. Mais voilà.
Après, faut reconnaître aussi, bon, ça, c'est un peu de la cuisine interne, mais c'est vrai que cette année, on a mis en place un mode de vote qui ne pondère pas les votes, c'est-à-dire qu'une voix égale une voix. Enfin, c'est plus facile de trouver des gens qui vont voter en négatif contre les pilotes Mercedes que de gens qui vont voter en négatif contre d'autres pilotes. Et mine de rien, ça joue beaucoup, parce que je suis assez d'accord avec toi pour... Enfin, sur cette course-là, je sais pas. Moi, pour moi, il y avait... je sais pas, en fait. Je sais pas vraiment. C'est difficile sur cette course-là. Il y a peut-être d'autres courses où il y aurait peut-être eu mérite de mettre... je pense l'Europe, par exemple. Bon, enfin, moi, je trouve que Rosberg fait une course incroyable en Europe. Et n'est pas récompensé à sa juste valeur, même si Pérez fait une très belle course aussi. Mais voilà. Mais c'est vrai que comme on ne pondère pas les votes, on le remarque bien cette année, ça a tendance à privilégier des gens qui vont être, qui seraient pas forcément le premier choix ou le deuxième choix, mais qui seraient forcément un choix possible, enfin qui serait presque un choix obligatoire. Et donc, dans un top 5, dans un top 4, bah, quelqu'un va tout le temps mettre un pilote parce que ce pilote-là fait objectivement une bonne course. Et peut-être pas la meilleure course, mais bah, du coup, l'empilement des votes fait qu'à un moment, bah, il va se retrouver devant les autres, parce qu'il y a des pilotes qui vont être un peu plus clivants et qui vont avoir des votes négatifs, pas forcément justifiés, mais en tout cas, voilà, ça va venir les tempérer un peu leur total. Quoi.
Et disons que les gens votent aussi par rapport à ce que fait le pilote comparé aux capacités de sa voiture. Or, quand tu as une Mercedes, bah, tu te dois d'être premier. Donc, tu peux pas faire mieux.
Messieurs, alors... Moi, je vais juste, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la gestion d'Hamilton. Je pense qu'il y a un petit élément qui n'a pas suffisamment été rappelé, mais Hamilton, là, il est dans une période critique de sa saison, parce qu'il est dans la phase où, s'il arrive à passer ces deux Grands Prix-là sans problème moteur, il pourra choisir d'en changer sur des Grands Prix où ça sera peut-être un peu plus favorable, comme Monza et comme Spa, qui sont les deux derniers Grands Prix européens et qui seront après la trêve. Donc moi, pour moi, la gestion d'Hamilton, au-delà du fait que Mercedes insiste bien sur le fait que c'était une gestion avant tout pneumatique, c'est vrai aussi. Dire la température, je crois que c'était le record de la saison là, hein, sur le Hungaroring, donc il y avait ce paramètre-là à prendre en compte. Mais il y avait aussi, pour Hamilton, le paramètre plus simple qui est qu'il sait très bien que de toute façon, il va avoir à prendre une pénalité à un moment ou à un autre. Et si justement, il peut retarder l'échéance pour s'assurer un Grand Prix d'Allemagne plus tranquille, il aura la possibilité d'être moins pénalisé quand il changera de moteur. Ça, je pense que ça n'a pas été suffisamment rappelé dans cette gestion d'Hamilton de sa course.
Après, je pense que Hockenheim est un des circuits où Hamilton pouvait remonter vraiment. parce qu'il y a vraiment une possibilité de dépassement. Et on a vu en 2014 que même si la Mercedes avait un plus gros avantage, mais il était remonté assez facilement. Mais je pense que la physionomie du calendrier fait aussi que pour Hamilton, c'est important de marquer plus de points avant la pause estivale. C'est toujours mieux de sortir d'un très bon résultat juste avant la pause. Alors que effectivement, s'il était parti dernier et qu'il avait concédé des points à Rosberg en Allemagne, enfin s'il partait dernier et qu'il concédait des points à Rosberg en Allemagne, ça l'aurait un petit peu cassé dans sa dynamique avant la pause estivale, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour un championnat si tu joues au championnat. Par contre, par rapport à la pénalité qu'il devrait écoper, alors c'était il y a 2 mois ou 1 mois, je crois que j'avais lu, un journaliste avait posé la question à Hamilton, savoir à quel circuit il comptait prendre une pénalité. On lui avait cité Spa et Monza, et il avait dit non, je pense à un autre circuit. Alors, je retrouve pas l'interview, mais il avait dit ça. Et donc je me demandais à quel circuit il pensait, parce que évidemment dans nos têtes, Monza est le meilleur circuit pour
Singapour
pour partir dernier. Oui, Singapour.
Oui, là où il peut remonter très facilement.
En demandant à Rosberg de se crasher volontairement pour.
Parce qu'il sait qu'à Singapour les Mercedes seront à 5 secondes des Red Bull, donc il a déjà prévu.
Mais non, mais et tu sais quoi, ça pourrait être une stratégie aussi de prendre un circuit où potentiellement la Mercedes pourrait être moins bonne et voire carrément ne pas viser la victoire pour là partir dernier et ne pas concéder trop de points sur Rosberg, parce qu'une victoire ça rapporte 25 points.
Franchement, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que c'est trop loin. Et avant, t'as 2 circuits sur lesquels tu peux quand même t'attendre à ce que ta vitesse de pointe soit un avantage. Parce que je suis d'accord, l'année dernière, si on se souvient bien, l'année dernière, Hamilton, son seul abandon de la saison, si je me trompe pas, c'est le Grand Prix de Singapour. Le Grand Prix où Rosberg fait 4e. Après, qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de septembre 2015 à Singapour pour les Mercedes? Je pense qu'on saura vraiment jamais complètement pourquoi tout d'un coup ça a flanché comme ça. Mais c'est vrai que l'année dernière, il avait eu cette chance-là, c'est d'abandonner sur ce Grand Prix-là et pas avant, quoi. Et pas après. Messieurs, c'est tout pour la course d'Hamilton?
Oui.
Oui.
Eh bien, passons au troisième de notre Quintet Plus, qui est un pilote Ferrari, qui a été élu pilote du jour de la Formule 1, du Grand Prix de Hongrie. C'est Kimi Raikkonen, qui a inscrit 45 points.
Il a été élu
points.
Pilote du jour?
Oui, tout à fait, il a été élu pilote
du
jour.
Ah d'accord, ok. Faudrait
pas chez nous.
Qu'on fasse quelque chose avec ça, parce que...
45 points donc, pour Raikkonen, 50
hein
votes positifs,
Hamilton.
5 votes négatifs.
Ouais, très honnêtement, Jassem, j'arrive pas forcément à dégager quelqu'un entre Hamilton et Raikkonen. Après, bon, pour concernant Raikkonen...
Je sais pas, un a gagné la course.
Alors, Raikkonen n'a pas une Mercedes.
Il a fini 5e.
Bref,
on fait une course par...
6e.
Il part 14e, il finit 6e. Donc, si on juge que la course, c'est une bonne course, parce que mine de rien, c'est pas... Encore une fois, on est sur un circuit où on dépend plus de la stratégie et il fait quand même très très bien tenir ses pneus, que ce soit les tendres ou les super tendres. Donc c'est quand même à signaler. Après j'ai pas grand chose à dire de plus.
Moi j'ai un peu de mal à comprendre comment vous pouvez être si timoré sur la très
moi,
belle
je
remontée.
Moi je peux en parler, j'en ai pas encore parlé.
Je te mets pas dans le tas alors. Mais j'ai l'impression que les gens s'enthousiasment pas pour la course de Raikkonen. Alors sur un circuit où on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement compliqué de dépasser, alors qu'il a quand même réussi à remonter.
Mais il en a fait les frais aussi, hein, parce que sa stratégie était vraiment très bonne. Hein.
Et sa stratégie était excellente.
Stratégie.
Mais il fallait la mettre en pratique la stratégie.
Mais il a fait une course solide en fait. Hein. Enfin,
mais il a fait une très bonne course.
Il a fait une course solide. Franchement, quand je vois les écarts de performance entre Verstappen et lui, je me dis quand même avec la ligne droite, il aurait quand même pu le passer. Enfin, ça me paraît dingue qu'il n'ait pas passé. Malgré tout, il fait une course solide. Il fait une course solide. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a été bon. Voilà. Hormis, vas-y.
Tu vois, moi, à la limite, c'est pas sur Verstappen que je lui ferais des reproches, en fait, à Raikkonen. C'est plutôt sur Grosjean, au tout début de course. Là, il bute vraiment sur Grosjean.
Lui aussi.
Et yes. Mine de rien, parce que buter sur Verstappen, je pense que ça arrivera beaucoup à l'avenir pour beaucoup de monde. Ça risque d'être un problème, Verstappen. Mais buter sur la Haas de Grosjean, même si effectivement Grosjean était en pneus super tendres, Raikkonen avait commencé la course en pneus tendres. D'ailleurs, Raikkonen a mis en place la stratégie idéale, c'est-à-dire la stratégie que Pirelli jugeait la plus rapide avant la course. Donc voilà, il y avait ça aussi, ça a bien aidé. Mais je pense que c'est sur ce premier relais-là ça lui coûte. Ça lui coûte, j'ai presque envie de dire, ça lui coûte sans doute le top 4. Et sans. Allez, si j'étais un petit peu optimiste, je dirais qu'il aurait peut-être pu envisager le podium avec sa stratégie, si tout avait marché, évidemment, comme sur des roulettes. Mais voilà, je pense que c'est un peu dommageable, ce tout premier relais. Il ne trouve pas l'ouverture sur Grosjean, et il perd quand même un peu de temps à ce moment-là, et qu'il se retrouve à la fin de la course, quoi.
Bah, je ne suis pas certain que les écarts de performance entre Grosjean et Raikkonen soient aussi élevés au moment où Raikkonen rejoint Verstappen, parce que Verstappen il était vraiment à l'agonie avec ses pneus.
Mais pas du tout.
Ça reste, pour moi, ça reste une course, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste une course solide de Kimi Raikkonen. C'est ce genre de course qu'on lui demande, en fait. Hein.
Et du coup, Fab, je comprends pas comment tu peux lui reprocher de buter sur Grosjean, alors que tu l'as dit toi-même, les Grosjean part en super tendre, neuf d'ailleurs, contrairement à. Normalement à d'autres. Et lui, il part entendre dans toute la partie sinueuse, en gros, les secteurs 2 et 3 du circuit, les deux tiers du circuit, où c'est du coup, en se suivant, c'est le grid mécanique qui fait la différence. Il peut rien faire.
Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas reproche. Pour moi, c'est pas. Enfin, même s'il y a une différence de vitesse, certes, sur la fin de course avec Verstappen, mais à mon sens, c'est moins problématique de buter sur Verstappen à ce moment-là, qui est un concurrent qui va te poser des problèmes, que de buter à ce moment-là sur Grosjean. Je dis pas que c'était simple de dépasser. Je pense que la course a bien démontré que non. Mais il avait justement fait des dépassements sympathiques en début de course. Moi, je m'attendais à ce qu'il règle plus facilement la Haas avec laquelle, même si lui avait des pneus tendres et elle des pneus super tendres, il arrivait à la suivre. Donc, voilà, c'est juste ça. Moi, si je devais prendre un point de la course de Raikkonen et dire ça lui a coûté cher, moi, pour moi, c'est ce moment-là. C'est pas tellement la fin. Je veux dire, voilà, c'est juste ça que je veux dire.
Alors après, il faut quand même souligner que la Haas a toujours été très difficile à dépasser. Cette année, que ce soit en Australie ou en Russie, c'est les deux exemples qui me viennent le plus à l'esprit. Mais là, c'est une bonne traction en sortie de virage. C'est pas si facile de la doubler.
Parce qu'il double. Alors, évidemment, sous réserve de comparaison valable entre Gutiérrez et Grosjean, mais il double Gutiérrez. Voilà.
Oui,
c'est pour ça que
vrai.
Je dis ça aussi.
Il double Gutiérrez ou Gutiérrez le laisse passer en tant que bon pilote Ferrari?
Bah écoute, Gutiérrez, il a prouvé qu'il était pas mauvais pour ne pas laisser passer.
Oui, c'est ça. En fait, il laisse passer quand il faut pas, mais il laisse pas passer quand il faut.
Non, mais enfin, je sais pas, mais de toute façon, cette partie-là de la course, on l'a pas vraiment vue, donc on peut pas vraiment juger de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vrai que Gutiérrez fait un tour très lent comparé au tour de Raikkonen, mais ça peut aussi s'expliquer par le fait que Raikkonen a porté une bonne attaque. Voilà, je ne saurais que dire, mais. Voilà. Après, très sincèrement, si je devais ressortir quelqu'un de la course, je pense que ce serait Raikkonen, effectivement. Parce qu'il fait quand même une très bonne course et qu'il a failli mener à bien sa stratégie jusqu'au top 5. Quoi. Mais bon, après, c'est juste pour trouver quelque chose à dire.
Voilà, ouais. On passe au second.
Allez.
Je suis curieux.
J'ai peur.
Alors, attendez, messieurs. Quel est votre pronostic, tiens, vous ne connaissez pas le quintet.
C'est pas Alonso.
Il reste qui?
Alonso et Raikkonen.
Alonso et Richard.
Ricardo, oui. Pardon.
Je pense que c'est Alonso qui gagne.
Non.
Je suis désolé pour toi, Jassim. Je pense que les auditeurs auront mis Alonso devant.
Non, mais Alonso, il a fait. Je mettrais même la course de Sainz.
Avant de discuter du cas, laisse le résultat. Mais...
S'il vous plaît. Ah, quelle bande de petits pressés. Oui, c'est Daniel Ricciardo qui est deuxième.
Bah oui.
Donc Daniel Ricciardo deuxième avec 48 votes positifs. Que des votes positifs, évidemment.
Attends, tu peux redire les points, s'il te... tu peux redire les points qu'ils ont eu chacun? Parce que de toute façon, maintenant, on sait, ben, on sait qui est le premier.
Les points
du coup.
Qu'ils ont eu.
Ouais, pour 48, voir si un gros écart.
48 à 51.
Pour la 7ème place, il finit premier, mais il roulait pas en Manor, le mec.
Et non, il roule en McLaren, c'est pire.
McLaren, c'est pas non plus extraordinaire. Même si ce week-end, c'était bon. Mais enfin, tu pareil, j'ai envie de dire la même chose pour Ricciardo. Il roule en Red Bull, il termine troisième. Hein. Ça se vaut.
Oui, au final.
Même si pour le coup, Alonso, c'est vrai qu'il y a plus de. Il y a plus le côté nouveauté, entre guillemets. On a moins l'habitude de le voir à ce niveau-là.
Mais pour en revenir à la course de Ricciardo, hein,
oui,
on en parlera peut-être après. Non, mais franchement, ça aurait pu être vraiment, vraiment pire, le résultat final, parce que il y a eu le second arrêt de Red Bull excessivement tôt. Ouais. C'est-à-dire à la mi-course, en gros, c'était pour donner une espèce de coup de pression au Mercedes qui avait un rythme, disons, inférieur à celle de la Red Bull. Du coup, voilà, ils voulaient peut-être éventuellement tenter l'undercut, mais c'était plus une solution à court terme, donc c'était pas vraiment réfléchi, je pense. Et il a dû faire un relais de 35 tours. Je sais plus c'était quel pneu qu'il avait. Il a dû
faire 37 tours en tendre.
C'était en tendre, donc c'était pas gagné d'avance. Et franchement, il a fait voilà quoi. Il a su gérer les pneus jusqu'au bout et puis il a tenu Vettel. C'était pas compliqué, il restait 2-3 tours donc il a fait la course qu'il fallait enfin pour pouvoir faire un bon podium parce que bon ça commençait à faire beaucoup. Mais voilà, le relais, super relais de 35 tours donc voilà, bravo. Et puis voilà.
Ouais, j'ai bien aimé le pari stratégique. Ça avait
moi
le
aussi,
mérite
au
de,
début,
de mettre le, de
j'ai
mettre
vu,
le doute
j'ai bien
sur
aimé,
Mercedes.
Mais je me suis dit très très vite. Oh mince. Dès que j'ai vu Hamilton améliorer, j'ai fait oh zut alors, mince.
Mais c'est pas idiot dans le sens où
oui,
parfois une équipe quand elle domine, si tu fais un petit coup de bluff stratégique, tu les forces à devoir changer leur plan, eh bien il peut y avoir des erreurs de commises. Bon, là il se trouve que Mercedes avait de toute manière de la marge, mais ça se tentait. Et alors... c'est bien pour lui de ne pas avoir payé à la fin cette stratégie.
Alors, ce serait bien que la prochaine fois, ces coups stratégiques, il les fasse avec la voiture de Verstappen.
Pourquoi ?
Pour que ce soit pas toujours Ricardo qui se tape les stratégies qui sont
potentiellement bien foireuses. Je suis pas d'accord. En Espagne, c'est un gros coup stratégique de laisser Verstappen en piste.
Oui. Je pense que là, sur ce circuit, c'est parce que Ricardo était quand même... Ricardo était le mieux placé. C'était lui le plus à même d'aller chercher les Mercedes en cas de undercut. Alors que Verstappen, forcément, il était quoi, une seconde et demie, deux secondes derrière. Là, je pense que Red Bull jouait aussi peut-être le undercut face aux Mercedes et qu'il ne pouvait le faire qu'avec la voiture qui était le plus proche des Mercedes à ce moment de la course.
Je sais pas si... Enfin, pour l'Espagne, j'en sais rien, franchement.
Mais pour l'Espagne, si tu te remets dans le contexte du Grand Prix d'Espagne, je pense que personne ne se dit ça va aller au bout. Ça, tout le monde se dit ils vont forcément devoir s'arrêter. Ou même si tu te dis s'arrête pas, les autres vont revenir dessus. Alors certes, c'est
le
pas
truc,
une.
Le truc c'est que c'est un circuit où ça a jamais été simple de dépasser. Donc
non,
quand
d'accord.
Tu tentes
d'accord.
Des choses, c'est jamais ça, ça marche jamais. Donc.
D'accord, mais tu sais pas si ton pneu va être suffisamment bon pour te permettre quand même de résister. C'était ça le point. En Espagne, je pense que c'était peut-être plus risqué de faire le pari Verstappen-Raikkonen que de faire le pari Ricciardo-Vettel. En tout cas, au moment où ça a été fait, c'était ça le.
Disons que dans le pari de Ricciardo en Espagne, le seul petit défaut qu'il y avait dans le plan, c'est que Vettel était sur sa route avant d'aller rejoindre le duo Verstappen-Raikkonen, et que ça lui a fait perdre beaucoup de temps. Mais sinon, je pense que c'était une stratégie pas si mauvaise.
En fait, il a passé la deuxième moitié de la course à gérer ses pneus, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il a fait il a fait le podium en gros qui le soulage parce que. C'est quand même plusieurs grands prix qu'il y avait Verstappen derrière et c'était jamais simple. C'est jamais simple de subir comme ça. Et je pense que ça lui a fait un peu de bien. Enfin, c'est surtout rassurant pour lui. Parce que moi, je lisais beaucoup des c'est le nouveau Mark Webber. Alors que non, quoi.
Ah, comme il ne gère pas. Non, il n'y a pas
de frustration.
J'ai quand même été soufflé par, effectivement, comme tu dis, 37 tours avec, avec un train de tendre.
Oui.
Que de Pirelli limite à combien, je ne sais plus.
29, je crois.
La différence,
oui, mais les recommandations tire... Pirelli, ça
ouais, tout le monde s'en sort dessus. Sauf arrêtez. Pour les pressions. Oui. Mais, ouais, 37 tours en tendre, il fallait les gérer parce que moi, j'avais vraiment peur quand je voyais qu'il changeait pas. Je me suis dit, mais à un moment donné, la performance va littéralement s'effondrer. Alors que non, ça, alors oui, Vettel revenait dessus, mais bon, ça, c'est normal, mais pas aussi vite que ce qu'on aurait pu l'espérer. Mais qu'on aurait pu le craindre.
Moi, c'est surtout le rythme. Enfin, il y a aussi le rythme de... Moi, je pense que Vettel aurait pu peut-être le rattraper plus vite, en fait. Mais moi, je le voyais, il gérait ses pneus et ça, l'écart restait à 2-3 secondes, quoi. Il réussissait, malgré les 20-25 tours, à quand même gérer un certain écart. Enfin, c'est quand même une grosse perf. Après, c'est peut-être pas la perf la plus voyante, hein. C'est pas comme... Voilà. Mais voilà, c'est une bonne perf. C'est une bonne course. Mais bon...
Après, les pneus tendres usés tenaient quand même bien la route quand on voit par exemple ce qu'a fait Raikkonen avec des pneus usés par rapport aux pneus neufs des autres, de ses concurrents directs lorsqu'il n'avait pas encore fait son arrêt.
Mais je crois que Ferrari, ils ont appris du passé, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas, aucun des pneus tendres de leur pilote n'a dépassé les 29 tours maximum recommandés par Pirelli.
Oui.
Note. Alors que justement, ouais. C'est là où je Vettel, là, s'il avait fait le premier, donc son deuxième relais, le premier en tendre un peu plus long, il aurait pu éventuellement faire un dernier relais en super tendre. Et ça aurait peut-être changé grand chose. Ça aurait peut-être changé les choses. Enfin.
Par contre,
pour Richard, tu parlais pour qui
Mais justement, face à Ricardo. Niveau stratégique, si le premier relais entendre de Vettel avait été plus long, ils avaient, mais du coup ils auraient dû dépasser les recommandations Pirelli, il aurait pu faire un dernier relais en super tendre. Mais bon, après remonter 25 secondes, ça fait beaucoup.
Par contre, il dépasse largement les recommandations Pirelli pour les pneus super tendres. C'était 14 tours et Raikkonen il fait 21 et 20.
Ouais, c'est vrai que pour ça, ils se sont...
C'est juste des recommandations.
Oui, oui, oui. Faut souligner. Voilà. D'ailleurs, il les donne depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne parce qu'à la suite de la polémique après le Grand Prix d'Autriche, quand le pneu de Vettel avait explosé, il les donne tout en précisant bien que ce sont des recommandations. Donc, ça n'a pas force contraignante. Hein. On ne va pas t'obliger à rentrer au stand une fois que tu as dépassé ou que tu atteins ce nombre de tours. Et que voilà, ça dépend des données, des équipes. D'ailleurs, on a vu qu'en Grande-Bretagne, première fois qu'ils annoncent publiquement cette limite. Tout le monde a dépassé le nombre de tours maximum en pneu médium. La fin de course, c'est que ça. Et là, il y a pas mal de pilotes, effectivement, qui dépassent les 29 tours en tendre et qui dépassent les... Alors, pas de peu ou de beaucoup, mais en tout cas, oui, on voit bien que ce sont que des recommandations.
Oui, puis après, ça dépend aussi comment tu conduis la voiture et donc les contraintes et l'usure que tu imposes aux pneus.
Bien, messieurs, allez, passons à notre vainqueur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 51 points, que des votes positifs. Fernando Alonso, parti 7e, arrivé 7e après des essais libres 1, 7e, des essais libres 2, 7e, des essais libres 3, 7e, et des 7e tout le temps.
Mais il aurait dû finir 7e du quintet plus ou moins.
C'est Mister 7.
Oh, okay.
Oui, c'était Mister 5 avant. Il fut un temps.
Moi, j'ai pas grand chose à dire, on l'a pas vu et je vois pas pourquoi il est premier, enfin ça. mais attendez, pas. Attendez, ça a rien à voir avec Ricciardo ou deuxième. Je n'ai pas dit que Ricciardo devait être premier.
Et on n'a rien dit.
Nuance.
Mais oui.
Non, parce que vous rigolez.
Mais on n'a rien dit.
On a rien dit.
Non, mais donc,
non, c'est incroyable.
Donc peut-être. Alors
la dernière, il avait fini 5e, il était premier aussi.
Oui.
autant là, tu vois, 5e.
Pas non.
Même pas sûr. Hein.
Pas sûr. C'était à vérifier. Je voudrais faire des tableaux. Enfin.
En tout cas, il était pas loin, sûrement dans le top 3. Alors.
Mais
il avait fait une bonne course. Je dis pas qu'il a fait une course pourrie.
Globalement, il y a le week-end, on va dire, le bon week-end. C'est un peu aussi récompensé le bon week-end de McLaren, je pense. Après, sur un circuit qui est fait sur le papier pour la McLaren telle qu'elle est actuellement.
Moyenne ligne droite, mieux c'est.
Bah,
oui, en gros, c'est ça.
C'est ça. Non, mais c'est ça, enfin, de toute façon.
Rappelons qu'en Autriche, c'était pas un circuit pour elle et ils font quand même
non, mais
résultat.
Attends. Je pense que ce qui est clair, c'est qu'on est quand même loin de la voiture l'année dernière et que, bon, même si c'est pas la panacée, c'est déjà, elle est déjà un peu plus fiable et puis en plus, elle est quand même un peu plus compétitive. Donc, globalement, on commence à avoir des trucs sympathiques. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose. En tout cas, moi, j'ai remarqué ça. J'en aurais pas fait mon pilote de la course, faut pas pousser. Mais c'est vrai que par rapport à la Toro Rosso qui est derrière, alors Toro Rosso qui a un moteur 2015 de Ferrari, certes, mais qui a une voiture qui, au niveau de l'aéro, est quand même intéressante et qui a été assez poussée, justement, pour cet aspect-là. Même si, sans doute pas complètement, pas complètement adapté au bloc Ferrari, par rapport à la Toro Rosso derrière de Sainz, c'est plutôt positif. Et d'ailleurs, Sainz, après la course, s'est montré un petit peu inquiet en disant, disons, la progression de McLaren est quand même inquiétante, sous-entendu inquiétante pour, bien sûr, Toro Rosso. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on note, c'est un peu l'aboutissement de cette progression, de pouvoir jouer la 7e place. Alors, c'est qu'une 7e place, on est bien d'accord, mais à la régulière. Après, je pense pas que Alonso la classerait parmi ses plus grandes courses, hein, on est bien d'accord, hein, y avait quand même pas grand chose à faire.
C'était pas la meilleure
course, c'était en piste.
On sait jamais avec lui.
C'était pas la meilleure course de sa vie.
Mais non, il a arrêté, vous avez remarqué.
Ah, il a arrêté. On a dû lui dire.
Il a arrêté après l'Australie 2016. J'ai dit, bon, non, c'est plus la course de ma vie. Non, mais Alonso, moi je suis un peu comme vous. Hein. De toute façon, je n'aurais pas forcément pensé à lui pour la première place. Mais c'est un très bon week-end, bien géré. Après, c'est. De toute façon, on a vu sur circuit que la McLaren était. Ouais, très possiblement la quatrième force.
Septième, donc, enfin, ça reste... Enfin, il n'a pas une manœuvre, quoi.
Non, mais enfin, c'est pas mauvais. Enfin, c'est bon, c'est même très bon. Mais c'est effectivement, bon. C'est pas c'est bon. Extraordinaire. Et pourtant, ouais. Dieu sait que je ne cautionne pas la fanbase d'Alonso, surtout à l'époque où il était chez Ferrari.
Non, mais la là, fanbase d'Alonso, elle n'est pas en dépression depuis là ou...
Je note qu'Alonso se réjouit particulièrement d'avoir gagné cette course dans l'autre championnat, comme il le dit si bien, alors qu'il s'était pas privé depuis une quinzaine de mois de dire que bon, ça servait à rien de toute façon Ferrari. S'il se battait pas pour la victoire, ça servait à rien. Il y avait pas de quoi se féliciter d'une deuxième place. Et là, par contre, il se félicite d'une septième place.
Oui, enfin, il y a un peu ce qu'ils ont.
C'est ironique.
Chez McLaren.
Après, bon, hein, je le défends un peu sur sa communication parce que, voilà, mine de rien, peut-être pas l'objet de l'émission, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand Ferrari a des difficultés, ça panique très rapidement quand même et ça parle tout de suite de changement. Alors, je ne dis pas que Alonso n'était pas responsable, hein, il avait sa part évidemment de responsabilité dans le naufrage de Ferrari. Mais en tout cas, voilà, on constate qu'il y a quand même des mots qui persistent, et même si on change de direction, ça surréagit beaucoup.
Mais je parle pas du rôle d'Alonso chez Ferrari, je disais juste que voilà, il y a eu un moment donné, c'était l'année dernière, quand Ferrari.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais après, il avait dit autre chose, faut pas.
C'est
rappeler ça.
Mais c'est intéressant le parallèle que vous faites, parce qu'imaginez quand même Ferrari dans la situation de McLaren en 2014. Quand on voit comment ça s'agite en ce moment, imaginez Ferrari dans la situation de McLaren en 2014. Mais c'est...
Oui.
Ferrari dans la situation de McLaren 2014, 2015, tu veux dire.
Non, 2014.
Parce que Ferrari, c'est déjà catastrophique en 2014. Hein.
Non, mais justement, McLaren en 2014, c'était catastrophique. Imaginez si ça a été comme ça.
Non. C'est pas
chez
catastrophique
Ferrari.
En 2014, McLaren.
Enfin, c'est 2015 catastrophique.
On a abaissé nos niveaux d'exigence avec McLaren avec le temps, mais c'était pas catastrophique.
Là, je,
2014, ils font 5e du championnat.
Je confonds, et effectivement, je sais pas pourquoi le Honda avait débarqué en même temps que les moteurs.
Oui, c'est pour ça que je te parlais de 2015.
Ils auraient aimé débarquer en 2014.
Oh oui.
Ah oui, c'est vrai.
Ils auraient un moteur à 25 chevaux.
Messieurs, bah voilà, on en a terminé avec ce quintet plus ou moins.
Ouais.
qui aura été mitigé, visiblement, sur le plan de la satisfaction.
De la logique.
De la logique. Bah, pas forcément de la logique de cette façon de faire le classement, mais en tout cas, ça prête à débat, c'est intéressant. Allez, juste des petits rappels avant de passer aux autres rubriques. C'était la 48e victoire de Lewis Hamilton, la 55e de l'écurie Mercedes. Au classement du SAV, après ce Grand Prix d'Autriche, nous avons en tête Max Verstappen avec 32 points, suivi par Daniel Ricciardo, 30 points. Romain Grosjean est 3e, 24 points, suivi par deux hommes à égalité, Alonso et Rosberg, 22 points. Pérez est 6e, 20 points. Raikkonen, 19 points en 7e place. Vettel est 8e avec 18 points. Hamilton est 9e avec 16 points. Carlos Sainz, 10e avec 12 points. Pascal Wehrlein, 11e avec 11 points. Bottas, 12e avec 9 points. Magnussen à égalité avec Bottas avec 9 points. Van Dorn, 14e avec 6 points. Égalité avec Daniel Viat, 6 points lui aussi. Button, 4e. Et enfin, en dernier classé, au 17e rang, Nico Hülkenberg et Julian Palmer, qui ont tous les deux 2 points. Classement des constructeurs, Red Bull est en tête avec 69 points, devant Mercedes 38, Ferrari 37, McLaren 32, Haas 24, Force India 22, Toro Rosso, Manor, Renault 11 points, Williams 9 et Sauber 0. Dans l'autre classement, le classement de l'obscur FIA, nous avons les 10 premiers chez les pilotes. Hamilton 192 devant Rosberg 186, troisième Ricciardo 115, Raikkonen 114, Vettel 110, Verstappen 100, donc belle lutte pour la troisième place en perspective. Valtteri Bottas 56, Perez 8e 47, Massa 38 et enfin 10e Carlos Sainz avec 30 points. Chez les constructeurs, Mercedes 378 points devant Ferrari 224 et Red Bull 223, suivent ensuite Force India 74, Toro Rosso 45, McLaren 38, Haas 28, Renault 6, Manor 1 et donc Sauber 0 aussi. Voilà messieurs, on va pouvoir passer tranquillement aux faits marquants.
Ah oui, le moment de franche rigolade.
Alors, les faits marquants messieurs, je vais d'abord me pencher évidemment sur les faits marquants du Grand Prix précédent, alors un petit peu, certes, d'aucuns diraient un petit peu faussé par la présence d'un invité.
C'est le moment où notre championnat perd de sa crédibilité.
Donc, 162 votants pour ce fait marquant, je pense que c'est le record de la saison. Étrange, hein. Donc 162 votants, il y avait les propositions suivantes, celle qui est arrivée en dernière position. À défaut d'un titre de champion du monde, Vettel s'entraîne pour décrocher une médaille dans la catégorie du pilotage acrobatique, qui avait reçu 22 votes. Bernd Melander n'a pas reçu le mémo de Toto, il est terminé 3e avec 24 votes. Hamilton, 2 points, Royal, a terminé 2e avec 36 votes. Et alors là, évidemment, l'écart, comme on dit. Verstappen, il va quand même pas lui faire l'extérieur qui a terminé premier avec 80 votes, 49% des voix. C'était évidemment la participation de Julien Febraud.
Donc là, on s'est embêté à penser à un championnat du fait marquant entre les chroniqueurs et finalement le vainqueur, ça va être Julien Febraud.
C'est le commentateur. C'est
évidemment un hors catégorie qui il ne lui sera pas remis ce prix, ne vous inquiétez pas. Donc messieurs, alors par contre, nous sommes face à un petit cas d'école puisque si je ne m'abuse, aucun des participants à l'émission précédente n'est dans cette émission. Ce qui va donc nous obliger à faire un classement, bah, en fait par une règle qu'on a un petit peu édictée précédemment, pour évidemment un petit peu d'équité sportive, nous allons aller de celui qui a le moins de points dans notre classement à celui qui en a le plus. Désolé Jassem, hein, tu as bien compris que ça ne serait pas en ta faveur. Nous allons donc commencer. Alors après, attention, hein, nous allons commencer par Bilo, puisque Bilo a 0 victoire en 5 participations. Ensuite, nous irons sur Buchor, qui a 2 victoires en 7 participations. Donc ça lui fait un ratio de 28,60. Puis, ça sera à mon tour, puisque j'ai 2 victoires en 4 participations. Ça fait un ratio de 50%. Et Jassem, tu seras dernier puisque tu as un très beau ratio, un beau ratio Kane, j'ai envie de dire, le ratio du leader, avec 2 victoires en 3 participations, ce qui fait évidemment 66%. Donc Bilou, tu es l'heureux élu.
Je commence. C'est les avantages d'être aussi nul, c'est de pouvoir commencer.
Alors prends ton temps, que j'aille jusqu'à la rubrique sondage.
C'est que la course, donc c'est pas le week-end.
Ah, oui, c'est que la course. Oui, c'est que la course. C'est que la course.
Il est libre max, mais tu mets trop entre parenthèses entre et libre.
Envoie-le lui par écrit parce que.
Il est trop libre max, merci. Non, c'est bon.
Ouais, et pas
de ponctuation particulière, juste un point.
C'est important.
Je savais que cette question serait cruciale.
Non, pas de ponctuation particulière.
Très bien. Eh bien, Bouchard, c'est à toi.
Merde. Je voulais faire le truc sur.
Alors, merde, pas de ponctuation particulière.
Ah, tu me diras, j'ai envie de mettre ça comme proposition. Maintenant que tu le suggères. Si, je sais quel sujet je vais prendre. Parce que l'avantage, c'est que c'est un sujet qui touche la course, mais aussi un peu le reste du week-end. Donc, on va faire. Ah oui, si. Bisounours 2 points. Et là, tu mets entre guillemets bienvenue à vous, les commissaires.
Pas de ponctuation particulière.
Ah, non.
D'accord. Bon, alors à moi. Bon, ça va, vous n'avez pas été trop méchant.
Il n'y avait pas de fait marquant sur ce Grand Prix.
Ah si, il y en a un, mais je ne savais pas comment trouver.
Il y en a un, mais il était en qualif.
Non.
Ah. C'était quoi le fait marquant?
Ah, c'est un truc, mais c'est... je ne veux pas lui dire. Marc, allez ici. Mais t'as Gutiérrez, c'est les drapeaux bleus.
Ouais, mais c'est ça, ouais. Je cherche un truc autour de ça.
C'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que je n'avais pas d'idée de formulation.
Le truc, c'est qu'il y aurait victoire majeure, mais le problème, c'est que je sais pas.
Ah,
t'as quelque chose là.
Non, faute majeure. Fab, c'est une faute majeure.
Tu copies pas un peu le gars qui fait les dessins humoristiques chez.
Oh bah.
Chez Tolef.
Même si je le trouve très, très drôle au niveau des jeux de mots.
Oh, j'en ai un pas le seul à le faire. Fabuleux.
Je sais pas. Je vais faire un truc genre Hamilton, 2 points, départ, course, doigt, virgule.
Arrivé.
Une course à l'honneur.
Comment je pourrais formuler ça? Hamilton, 2 points, départ, course, doigt.
Et c'est plié?
Non, mais il faut que je réutilise majeur, parce que sinon c'est. Bon, allez, je vais faire un truc plutôt simple.
Majeur du championnat.
Départ, course, doigt, tout a été majeur. Et ce sera un point d'exclamation pour tout vous dire. Et donc, Jassem.
Alors, moi j'en ai un, donc c'est RIP, la domination de Rosberg, entre parenthèses, 20 mars 2016, 24 juillet 2016, entre parenthèses.
Alors attends, RIP, la domination.
Une pensée pour lui.
Oh, RIP, la domination de Rosberg, entre parenthèses, tu m'as dit?
Entre 20 mars 2016, le début de la saison.
Ouais.
24 juillet 2016.
Moi, j'aime beaucoup ton fait marquant, Jassem.
Oui, il est sympa.
Où Hamilton finit en tête de la course, comme d'hab, par rapport à votre dab qu'il a fait. Mais...
Donc,
C'était trop subtil.
Tu m'as dit RIP, et j'enchaîne direct. Hein. RIP, la domination de Rosberg, c'est ça?
C'est ça. Mets deux points après, et tu mets entre parenthèses.
D'accord, très bien. Merci. Merci d'avoir précisé.
Alors, je conteste un petit peu sur les pierres tombales. Lorsqu'il y a marqué RIP, il n'y a pas de deux points juste après.
Eh oui, mais c'est ça la magie.
C'est un aspect qui peut peiner beaucoup de gens en ces temps difficiles.
Non, mais comme on est comme Max, on est libre.
Pilot qui use de tous les moyens possibles. C'est beau.
De toute façon, c'est spécialiste de contestation,
Ah oui, c'est une habitude de tirer.
Comment vous me bâtissez une réputation absolument pas justifiée?
C'est ancestral.
Ah, t'es le seul qui a créé des polémiques dans le Fantasy F1.
Non.
Oh non, je suis désolé, Fab, depuis
que c'est déjà... Ça, c'est peut-être un peu difficile. Donc voilà, ben, ce sondage, vous le retrouverez dans l'article qui contiendra le podcast que vous écoutez. Vous y avez sans doute déjà répondu. Et sinon, vous le retrouverez évidemment sur la droite du site sur la page d'accueil. Voilà.
Là, j'avais un autre fait marquant.
Pour ces faits marquants. C'est trop tard, Bilo, ça suffit maintenant. T'as eu le premier choix en plus. Il faut savoir aussi en laisser aux autres.
Ouais.
Et donc, messieurs, après les faits marquants, on va bien sûr passer au drive-thru. Et est-ce que quelqu'un a un drive-thru? Est-ce que vous avez des drive-thru?
J'en ai un, mais pas forcément par rapport au week-end, même s'il en a encore parlé, c'est Alonso qui arrête pas de parler de ses besoins, ses envies d'endurance, de machin. Au bout d'un moment, il devient lourd. Enfin, s'il veut partir, qu'il parte, quoi. Au lieu d'essayer de faire de la pression à McLaren Honda de cette façon-là, ça devient lourd. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui.
C'est entendu. Bonjour, Bilo. Le sondage est en ligne, hein, d'ailleurs, je vous l'indique dès maintenant.
Très bien.
Vas-y. Bah, disons que j'ai resté dans la droite lignée de mon fait marquant, c'est l'absolu, mais n'importe quoi, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi qu'ont fait les commissaires ce week-end. C'est entre le fait de, on ignore des règles, on s'assoit sur des règles, on applique la même règle à certains pilotes, mais pas à d'autres, Voilà, j'ai vraiment halluciné de ce point de vue sur l'ensemble du week-end. J'ai à n'y rien comprendre.
Oui, là je crois que... Mais bon, ce que je disais sur Twitter, c'est qu'à un moment, même si on peut, je pense, taxer Hamilton de ne pas être tout à fait désintéressé dans cette affaire, c'est bien, c'est même très bien que lui, qui est la star actuelle de la discipline, qui est la figure de proue, qui est la personne qui a de l'influence... auprès d'un public large, et ben c'est bien que ce soit lui qui soit allé au charbon sur cette question, rejoint en cela d'ailleurs par d'autres pilotes, notamment par Vettel, qui a lui aussi exprimé son étonnement. Encore une fois, la question après, c'est pas de dire que est-ce que ces pilotes en ont profité un moment ou pas dans leur parcours F1, peut-être, mais je veux dire, ça c'est même plus important. L'important, c'est que on a vu quelque chose samedi, on a vu, alors même si encore une fois, c'est pas accusé Rosberg que de dire ça. Ce n'est pas être sévère avec Rosberg, c'est être sévère avec quelque chose qui a déjà été mentionné et qui a déjà été mentionné notamment dans le rapport Bianchi qui avait mis en cause le fait que c'était pas normal que les pilotes ne ralentissent pas comme ils devraient ralentir sous double drapeau jaune, et même si c'est pas le facteur, enfin même si c'est qu'un des nombreux facteurs qui a amené à la mort de Jules Bianchi, c'est aussi un facteur important, parce que peut-être que si on avait respecté à la lettre et que si la FIA, la direction de course, n'avait pas fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire quantifier avec des valeurs tout à fait insuffisantes le ralentissement d'un pilote, bah peut-être que ça serait pas arrivé, parce que peut-être qu'à ce moment-là, il se serait vraiment arrêté. Et ce qui s'est passé dans le tour de Rosberg, et là où ça, je pense, choqué, je sais pas, mais en tout cas que ça a étonné beaucoup de monde, c'est que à un moment donné, il signe la pole position alors qu'il passe très clairement dans une zone à double drapeau jaune. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si après on va nous expliquer qu'Alonso n'était plus sur la piste à ce moment-là, qu'importe. La question, c'est pas de savoir si Alonso était sur la piste. La question, c'est de savoir, c'est est-ce que c'est bien normal que dans un tour rapide, on ne ralentisse pas de manière significative alors qu'on passe dans une zone à double drapeau jaune. C'est un cas de sécurité majeure, c'est un cas de sûreté majeure, à la fois pour les pilotes, mais aussi et surtout pour les gens qui travaillent à côté et qui, eux, n'ont pas de protection, qui ne sont pas dans une voiture qui les protégera en cas d'accident. Et quand bien même ça serait le cas, ça serait de toute façon pas normal. Donc, dire à un moment donné, il faut que la F1 se pose aussi les bonnes questions. Tout à l'heure, je me suis emporté sur la question des radios, mais voilà, typiquement, je pense que ce week-end, on a eu les deux extrêmes de ce que la Formule 1 peut faire de pire, c'est-à-dire de sanctionner durement des choses qui sont insignifiantes, qui sont juste des choses qui apparaissent aux yeux du public comme des choses négatives, et de laisser de côté un énorme truc qui est clairement à l'encontre des règles telles qu'elles sont édictées et telles qu'elles sont apprises aux jeunes pilotes dans les écoles de pilotage, c'est-à-dire que quand il y a des doubles drapeaux jaunes, c'est pas un simple drapeau, mais même de toute façon, ça sera un simple drapeau jaune, il faudrait ralentir. C'est double drapeau jaune, ça veut dire qu'il faut que tu sois prêt à t'arrêter, il faut que tu ralentisses significativement, et c'est bien, c'est vraiment très bien que deux pilotes qui ont été multiples champions du monde, et ben prennent ce dossier-là à bras-le-corps, parce que c'est un des nombreux aspects qui n'est pas logique dans la Formule 1 actuelle. On devrait avoir des systèmes qui nous permettent de vraiment ralentir les voitures et de pas assister à des scènes incroyables, et en plus qui sont cautionnées par les directions de course à ce moment-là.
Et encore plus hallucinant, à la limite, ils nous avaient déjà démontré que ce genre de décision, ils pouvaient les prendre. Ils l'ont déjà fait. Moi, ce qui m'a le fait quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on l'a su après, mais ce qui est quand même hallucinant, mais complètement, c'est qu'ils ont, pour les qualifications, puisqu'il y a quand même, c'était 10 ou 11 pilotes qui n'avaient pas de temps. Donc, ils en ont fait passer 5 en Q2, parce qu'ils n'ont pas appliqué la règle qui est très précise et très claire des 107%. Par contre, les 5 autres, les 6 autres, qui ne sont pas passés en Q2, ils ont appliqué la règle des 107% pour déterminer leur remplacement sur la grille. Vous allez m'expliquer comment, au même moment, les commissaires décident d'appliquer une règle à des pilotes et pas d'autres. C'est absolument aberrant.
Et là après, j'ai envie de dire, c'est un problème encore plus global. C'est que après, je sais pas si c'est pire ou mieux, mais c'est que il y a deux règles qui sont contradictoires, puisque au départ, les commissaires allaient appliquer la règle dont tu parles, hein, c'est-à-dire la règle des 107%, donc aller reclasser les Red Bull, les Force India et Bottas. Mais finalement, il y a une écurie qui est arrivée en disant, une ou plusieurs écuries qui est arrivée en disant, mais regardez, il y a une règle aussi qui dit que le classement se fait à partir du meilleur temps en Q3 et que voilà. En gros, ça c'est vrai, c'est que le règlement à cet endroit-là se contredit. Et je pense que là, pour le coup, les commissaires ont fait quand même preuve de bon. On va dire bon, j'aime pas trop le bon sens, parce que le bon sens, tu peux à peu près tout faire avec le bon sens.
Et tu le fais quand tu veux.
Qui ont fait preuve de logique sur ce coup-là. Mais ça fait partie de toute cette question de la simplification des règles que les écuries dont les écuries veulent parler. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. ces grands concepts, c'est souvent voué à l'échec.
C'est comme la réduction des coûts.
Voilà, c'est ça. Vous avez vu, c'est à peu près le même rythme, en plus, ça a la même sonorité, ça va finir pareil. Mais bon, voilà.
Alors, je vais pas faire dans les fous, parce que mon incompréhension face au commissaire par rapport au cas Verstappen en était plus ou moins un, mais je vais quand même revenir sur l'affaire Rosberg, juste 2 minutes, pour dire que je suis absolument d'accord. À mon avis, il faut revoir la règle, parce que le considérablement du règlement n'est prête trop à confusion, et les commissaires peuvent en jouer. Donc je pense qu'il faut effectivement changer ça. Après, très honnêtement, j'ai revu encore le tour de Rosberg. On voit quand même qu'il ralentit dès qu'il y a le double drapeau jaune. Faut pas non plus critiquer pour ça. Franchement, il ralentit bien avant le virage lorsqu'il voit les doubles drapeaux jaunes. Et ces doubles drapeaux jaunes il ne les voit que sur 2 virages. Après, ils sont tout de suite enlevés, ce qui lui permet de limiter clairement la casse sur ce secteur. Et il y a quand même une grosse amélioration de la piste qui fait qu'il ne perd qu'un dixième dans ce secteur. Parce qu'Hamilton, dans le même temps, a amélioré de 4 dixièmes dans le premier secteur. Donc, il ralentissait quand même. Voilà, faut pas parler en dixième de seconde perdue, mais aussi en vitesse perdue. Et je pense que dans l'esprit, il a quand même ralenti. Mais effectivement, je pense qu'il faut faire plus. Et ça, c'est effectivement à la FIA et aux instances de corriger ce problème au niveau légal.
Après, je pense que Fab sera d'accord avec moi quand je dis que je ne blâme pas Rosberg, parce qu'il sent, il a comment dire, il a réagi en fonction des décisions qui ont été prises avant pour le sous-drapeau jaune. Donc il a levé le pied, tout ça, comme il s'attend, comme la FIA s'attend à ce qu'un pilote le fasse. Sauf que là où on est d'accord, je pense, avec Fab, c'est de dire, mais c'est pas ça qu'il faut. L'esprit de la règle, il est galvaudé. Il faut quelque chose, il faut dire, ben, la voiture, il faut qu'elle roule 30-40% plus lentement dans un secteur, plutôt que de dire, ah ben, 5 dixièmes, ça suffit, etc.
Il faut, oui, il faut une réglementation précise à ce sujet.
Oui, mais précise,
considérablement,
mais...
c'est pas précis.
Le truc, c'est que ça a été considérablement, dans les faits, c'est plus tellement. C'est pas ce qu'il vaut, puisque ça a été chiffré plus ou moins. C'était quelque chose de l'ordre de 1/10 sous drapeau jaune, 1/2 seconde sous drapeau jaune. Après, évidemment, sujet interprétation. Effectivement, raison Milo, les conditions de la piste à ce moment-là étaient changeantes et elles s'amélioraient notablement. Mais le problème, c'est qu'on n'est clairement pas ici dans un cas où on peut assurer que si jamais il n'y a pas une monoplace qui se trouve à la sortie du virage, on peut quand même pas assurer que Rosberg puisse l'éviter ou voilà. Enfin, le problématique, c'est... Mais encore une fois, je pense que c'est comme toujours. Hein, c'est qu'il faut qu'on soit mis un peu le nez dans la merde pour bien voir le problème. Dire, c'est quelque chose qu'on a, que nous, dans le SAV, on a dit, mais c'est pas quelque chose sur lequel on s'est forcément indigné tout le temps. C'est-à-dire, pas plus tard qu'en Autriche, Hülkenberg fait la même, il n'y a pas de tour embarqué, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Là, Rosberg, lui, enfin, mais encore une fois, c'est pas tellement Rosberg, ça aurait été Hamilton, ça aurait été Vettel, ça aurait été n'importe qui. Le problème est le même. C'est-à-dire qu'on a clairement un pilote qui fait une pole alors qu'il passe à un moment sous double drapeau jaune. C'est anormal. Et je pense que même si ça s'est fait il n'y a pas longtemps, je pense que ça, c'était c'est peut-être la chose qui, avant un drame, même si, encore une fois, moi je mets le drame de Bianchi dans cette case-là, une partie du drame de Bianchi dans cette case-là, c'est que à un moment, c'était l'image qu'il fallait, c'était le mec qui fait la pole alors qu'il passe sous double drapeau jaune, c'était un petit peu l'image choc qu'il fallait pour réveiller des consciences. Alors après, je suis bien d'accord que on pourra considérer que c'est tardif, ça c'est évident, et puis on peut surtout considérer que tout le monde en a bien profité à un moment ou un autre depuis qu'il y a eu une telle clarification. On est tout à fait d'accord, mais à un moment donné, c'est bien que ça se réveille, et c'est bien que ça bouge de ce côté-là, parce que c'est pas normal, c'est pas logique, on peut pas laisser des choses comme ça se faire, alors qu'on cherche de l'autre côté à de plus en plus sécuriser les voitures. On en parlait au début avec le halo. Et à un moment donné, c'est complètement contradictoire. On peut pas faire tout et son contraire, et que ça continue sans que jamais il y ait de problème. Encore une fois, l'accident de Bianchi, c'était exactement cette somme-là de contradictions, de situations dans lesquelles on ne réagissait pas, la situation de la grue, la situation de la luminosité, la situation des doubles drapeaux jaunes, ça a été la conjonction de ces éléments-là, en plus d'un contexte, évidemment, on peut pas le nier, voilà, il y a un contexte qui est un contexte de course surplus humide, avec des pneus intermédiaires qui étaient abîmés, mais malgré tout, c'est cette conjonction-là qui a mené au drame, et c'était une des recommandations du rapport Bianchi. Donc, c'est pas normal qu'on en soit toujours au même point d'avant l'accident de Bianchi et qu'on constate qu'un pilote qui, dans les faits, enfin qui, en théorie, ne respecte pas le règlement, puisse s'en tirer sans pénalité. C'est juste ça. Le reste, après, voilà, c'est pas la... Oublions le passé et maintenant tournons-nous vers un avenir dans lequel, sous double drapeau jaune, on pourra assurer à un pilote qui est au milieu de la piste, dans sa voiture, en tête à queue, ou à des commissaires qui sont en train de travailler, même si on peut considérer que dans ces cas-là, ça serait la virtual safety car. Mais c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que quand on rajoute de plus en plus d'étages intermédiaires entre deux points, qui est le drapeau vert et le drapeau rouge, forcément, à un moment donné, ça crée de plus en plus de zones grises entre les moments où on va utiliser la VSC, les moments où on met le double drapeau jaune. Est-ce qu'en mettant la VSC, on n'a pas affaibli encore plus le drapeau jaune, alors que, justement, au contraire, il aurait fallu le renforcer? Voilà, c'est tout ce questionnement-là qui est intéressant. Et là, c'est bien que ça soit pris à bras-le-corps et que ça soit discuté, en espérant, évidemment, parce que ça, c'est bien, c'est une chose, mais en espérant que ça débouche sur quelque chose de concrètement en accord avec le règlement.
Mais Fab, je suis à être honnête avec toi, il va rien se passer.
Je suis pas sûr.
Je suis pas certain.
Je suis prêt à vous prendre le pari que ça, qu'il ne va rien se passer.
J'ai l'impression quand même que maintenant que deux pilotes de poids en ont parlé, ça peut...
Ouais, moi aussi.
C'est mon sentiment, hein. Je pense que ça va bouger même.
Bah, va voir. Mais moi, je vous dis, on va reparler un peu en fond en Allemagne, et puis il y a les vacances, et on va revenir en Belgique. Tout le monde aura oublié. Hein. À moins qu'il se passe quelque chose en Allemagne.
Mais
on sait comment ça se passe sur la sécurité de ce point de vue-là, la FIA. Tu crois qu'après l'accident de Bianchi, même après ça, ils se sont pas remis en... La FIA s'est pas remis en cause. Tu crois pas que c'est parce qu'ils ont autorisé une pole qu'ils vont se remettre en cause? C'est les FIA, quoi.
On verra. Mais c'est évidemment pas du tout impossible. On est peut-être des doux rêveurs, hein, mais bon. Voyons ça.
Ouais.
Messieurs, je crois qu'on en a fini avec nos drive-thru.
Ouais.
Oui.
Et on va pouvoir donc passer au coup d'œil dans le rétro. Alors, je vous cache pas que je pensais que l'émission serait un peu moins longue. Donc, j'avais prévu un coup d'œil dans le rétro, disons, un petit peu difficile. Voilà. Mais donc, nous étions le 24 juillet. 24 juillet, c'est la date qui est la date de naissance, pardon. Un certain Thiago Montero. Thiago Montero qui, évidemment... dont le fait d'armes, ça a été ce podium acquis de haute lutte au Grand Prix des États-Unis 2005. Le fameux Grand Prix où il ne restait plus que 6 voitures sur la grille après l'imbroglio Michelin des essais.
Contre les farouches Kartikeyan et Albers.
C'est ça, bah oui. Quel grand talent. 40 ans, Thiago Montero, qui est actuellement en WTCC. Voilà, ensuite un 24 juillet, il y a eu principalement des Grands Prix d'Allemagne. Alors, le Grand Prix d'Allemagne 88, remporté sous la pluie par Ayrton Senna. Le Grand Prix d'Allemagne 2005, remporté par Alonso. Et le Grand Prix d'Allemagne 2011, remporté par Lewis Hamilton. Mais moi, messieurs, ce que je vais vous proposer ce soir pour arrêter de faire appel à StatF1, voilà, je vais vous proposer un chiffre inutile. Alors,
ah yes.
Avant de vous le donner, je dois vous dire que c'est dur. Je pense que vous ne serez pas tout de suite sur la voie. Donc, si jamais je constate qu'il y a peut-être un temps un petit peu trop long, je vous donnerai des indices. Mais ce chiffre inutile, c'est le chiffre 3. Évidemment, c'est en rapport avec la date du 24 juillet.
Juste le 24 juillet et la Formule 1 ou...
24 juillet, Formule 1.
Ah, bon. C'est pas un chiffre inutile.
Et, disons que c'est un peu moins utile que...
Non, mais le chiffre inutile, il n'a jamais été utile.
C'est ça. Non, mais ne vous inquiétez pas.
Oh, non, tu réponds par oui ou par non.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que
ça a un rapport avec un pilote?
Un rapport avec un pilote, effectivement.
Est-ce qu'il y a un nombre d'unités? Est-ce qu'il y a une unité derrière ou c'est juste un nombre de quelque chose?
Oui, il y a une unité, mais c'est pas une unité habituelle.
C'est des années de lumière?
Non, c'est des mais vraiment pas habituel.
Est-ce que c'est un nombre de quelque chose?
Oui, c'est un nombre de quelque chose.
De l'argent?
Non.
Du temps?
Non.
Une distance?
Non.
Victoire?
De quoi?
Victoire?
Non. Alors, on va se servir un petit peu du chat, hein, évidemment. Gus Gus qui demande si c'est un rapport avec les grands prix qui sont cités. Eh bien, justement, non. Ça n'a pas de rapport avec ces grands prix-là.
Ah, le chat nous a été utile, effectivement.
C'est en rapport avec un pilote en particulier?
C'est un pilote en particulier, oui.
Est-ce que c'est un
pilote actuel?
Voilà,
non.
Question.
Est-ce que c'est un nombre de fois?
Non.
Est-ce que c'est un pilote décédé?
C'est un pilote décédé, effectivement.
D'accord, Nick Hedfeld, pardon, je veux dire Ayrton Senna.
Non, ni Nick Hedfeld, ni Ayrton Senna. On pense d'ailleurs très fort à Nick Hedfeld.
Est-ce que c'est un pilote qui a gagné des courses?
Oui, c'est un pilote qui a gagné des courses.
De F1?
Qui a été champion?
Oui, il a été champion, oui, il a été champion.
Michael Schumacher, ça a un rapport avec Michael Schumacher?
Non.
C'est bon. Jochen Rindt?
Non.
Ah non, c'est vrai, il est décédé. C'était pas fait exprès. Un pilote ancien, enfin des années 60.
Il a couru dans les années 60, effectivement.
En rapport avec Jim Clark?
Non.
C'est un pilote qui est mort en course ou qui est mort plus tard?
Et il est mort plus tard. Il est pas mort en course.
Graham Hill?
Non.
James Hunt? C'est un rapport avec James Hunt?
Non.
Et il a pas été champion des années 60.
Non, ouais. Plus. On nous donne Gus Gus donne Denny Hulme. Non, c'est pas Denny Hulme. Même si Danny Hulme m'a, comme une partie des pilotes que vous avez cités, un lien avec ce pilote-là. Je ne suis pas sûr que ça vous aidera forcément.
Est-ce qu'il a été champion du monde, tu as dit ? Est-ce qu'il a été plusieurs fois champion du monde ?
Tout à fait.
C'est ça le rapport avec l'autre ?
Avec eux ?
Non, c'est avec qui ? Non, je ne sais plus.
Il a été champion dans les années 60 ?
Oui.
Jackie Stewart ?
Non.
Mais il est pas mort.
C'est pilote d'essai.
C'est ah oui,
d'un pilote d'essai.
Ouais, j'oublie toujours cette.
Il reste qui ? Il reste, je sais pas, Jack Brabham. Je sais pas s'il est mort.
Oui, il est mort.
Oui, il est mort.
C'est bien Jack Brabham. Gus Gus avait trouvé sur le chat.
C'est quoi ? Il a à chaque fois gagné son titre à Hongrie.
Non.
Il a été trois fois. Il a été trois fois champion du monde.
Oui, ça c'est vrai, mais c'est pas ça que je fais. C'est un rapport avec la date. Alors là, vous avez fait la partie la plus facile. Hein, donc.
Il s'est marié le 24 juillet
Non.
Il a gagné 3 courses le 24 juillet
Non.
Il se rasait 3 fois le 24 juillet.
Il a fêté 3 fois son anniversaire
à son 24 juillet. Attendez, non, alors c'est pas le coup de l'anniversaire. Qu'est-ce que t'as dit, Bouchard ?
J'ai dit il s'est rasé 3 fois le 24 juillet.
Non, mais tu vois, c'est plutôt du style de l'anecdote. Et en parlant de ça, tu n'es pas forcément très très loin.
Ça a l'air d'être bien inutile alors.
Mais c'est un chiffre inutile.
J'ai prévenu.
Non mais ce sont les jeunes, ils savent pas ce que c'est le vrai chiffre inutile.
Ah oui, mais c'est ça. Comme au bon vieux temps.
Bah, c'est le jeune. Moi je sais ce que c'est.
Si tu dis ça tenait de l'anecdote, mais c'est pas plutôt aussi une superstition ou...
Non, non, non.
Alors, est-ce que c'est le nombre, c'est quelque chose qu'il faisait trois fois dans ce jour-là ou...
Non, ça, c'est pas quelque chose qu'il faisait trois fois. Quelque chose qu'il a fait une fois.
Et ça a été un seul 24 juillet ou plusieurs 24 juillet ?
Un seul 24 juillet.
Il a changé trois fois de voiture ?
Non.
Il a changé trois fois de casque ?
Non.
Trois fois de femme ?
Non.
Le même jour.
Le même jour, ça c'est fort. Non, ça n'a pas de rapport avec Williams, bien entendu. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas de rapport avec Le Mans, c'est bien avec la Formule 1.
Est-ce que ça s'est déroulé sur un circuit ?
Oui, ça s'est déroulé sur un circuit.
Il a crevé trois fois ?
Non.
Il a eu trois pannes ?
Non.
C'était en Allemagne ?
C'était pas en Allemagne, non.
Est-ce que ça s'est passé pendant une course ?
Pas pendant.
Avant ?
C'est passé avant une course, effectivement.
Il s'est enfilé trois bières.
Non.
J'allais dire un truc, ça allait être dégueulasse.
Mais... Je sais pas comment vous allez trouver.
Ah, il a fait trois fois l'amour.
Ah. Peut-être, mais c'est pas ça.
Merde.
Il a mangé un triple hamburger ?
Non.
Il est arrivé 33 minutes en retard.
Il s'est douché trois fois ?
Non, mais ce que tu dis, JSM, c'est intéressant. C'est vrai que...
Ah, il est arrivé 3 heures.
Non, non, mais voilà, le fait qu'il puisse arriver en retard, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant.
Ah, il est arrivé.
Oh putain. Je m'en fous un peu parce que c'est.
C'est-à-dire que les trois trucs qu'il a fait avant, ça l'a mis un peu en retard ou failli le mettre
en
retard ?
Mais il a pas fait trois trucs en fait. Vous restez là-dessus, mais il a pas fait trois trucs. Il a fait qu'un seul truc.
Mais trois fois ?
Non !
Non,
c'est ce qu'il vient de dire.
Ah.
Il a fait un seul truc.
Ah, génial. Donc, et ce truc l'a mis 3... Quel rapport avec le chiffre 3, là ?
Alors, je dis le chiffre 3 depuis le début, mais en réalité, je pourrais dire plutôt... Ça serait plus juste de dire 2 plus 1.
Oh là là, tu nous embrouilles.
Je me demande si je préférais pas le jeu de Scanny.
Ah ouais, non, mais j'avoue... Je pensais vraiment qu'il y aurait plus de temps.
Ça fait 3.
Ah bon ? 3, 2, plus 1. Oh, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu lui empêcher de faire une course ?
C'est dur de répondre à cette question, mais disons que... Non, ça n'aurait pas pu, mais l'idée de... Voilà, l'idée de ne pas pouvoir faire la course, c'est intéressant.
Et le nombre de points qu'il a perdu son permis pour arriver au circuit ?
Non. Scanny, voilà, hein, essayez de trouver l'unité. Mais quand je vous ai dit que c'était pas une unité habituelle, c'était voilà qu'on.
En litres ?
Non, c'est vraiment pas habituel, mais.
En hectares ?
Non, non, mais c'est pas une unité. En fait, c'est pas une unité, voilà. C'est pas une unité de mesure.
C'est un nombre de quelque chose.
C'est un nombre de quelque chose, voilà.
Mais donc, c'est pas une unité. Alors là.
Pas une unité de mesure, en tout cas. En plus, ça monte, mais vous allez être super déçus.
Ah, mais c'est. Forcément, forcément.
Bah oui.
Une panne.
Non, c'est pas une panne.
Mais c'est l'unité en fait. Enfin, c'est.
C'est ça enfin, qu'on l'a pas trouvé. Trouvé ça va pas nous. Tout. Voilà. Est-ce que ça a un rapport avec le.
C'est quelque chose d'agréable pour lui ou de.
Ouais, bonne question.
De désagréable.
Bah, justement, il faisait ça en réaction à quelque chose de pas forcément très agréable.
Oula, j'ai des trucs en tête.
Ah, alors sur le chat, un célèbre inconnu nous dit le nombre de doigts qu'il a montré à des retardataires. C'est pas des doigts, mais il y a de l'idée.
Ah, des fesses.
Il a montré ses fesses, oui. De...
Non. Mais on se rapproche.
J'espère que c'est pas ce que je.
Son non, c'est pas ce que tu penses.
Des bras d'honneur.
D'accord.
Des bras
d'honneur. Pas les bras.
T'as dit qu'il était, qu'il pouvait être énervé ou.
Bah, en tout cas,
le point.
Voilà, c'était en réaction à quelque chose de pas très agréable.
Le point.
Non, c'est pas le point.
C'est en réaction à ce qu'on dit de lui. À ce qu'on dit de lui.
À ce qu'on disait de lui, oui, tout à fait. À ce qu'on a dit de lui avant.
Genre des gens ou la presse.
Et la presse et certains pilotes.
Le dos, pour tourner le dos.
Ah, on disait qu'il était trop vieux.
Oui, on disait qu'il était trop vieux.
Ah non, pas ça.
Ah, j'ai presque envie de l'accorder, mais je veux voir si ça peut aller jusqu'au bout.
C'est le.
Je sais pas, il a fait. Je sais pas, il s'est rendu, il est venu avec, je sais pas, en fauteuil roulant ou.
Presque. Allez, c'est bon, tu vas l'avoir. En béquille.
Ouais,
oui,
une...
allez.
Oui.
En béquille, je vais te l'accorder, Bûcheur. Oh. Mais Jack Brabham, le 24 juillet 1966, il s'est rendu dans sa voiture sur la grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas avec une longue fausse barbe et une canne. Et il a marché tout doucement comme un papy. Et tout simplement bah, parce que dans la presse et dans le paddock, on considérait, il venait d'avoir 40 ans cette année-là, on considérait bah, qu'il était trop vieux pour remporter le titre mondial, que ses deux victoires avant le Grand Prix des Pays-Bas ne seraient qu'un feu de paille. Et donc voilà, lui il a voulu répondre aux critiques par cette petite scénette amusante. Voilà, et il est allé jusqu'à sa voiture, donc en marchant tout doucement avec sa canne, il y a des photos, vous pouvez trouver des photos sur internet, et là il y a certains pilotes qui ont poussé le gag encore plus loin, en le faisant monter, en l'aidant à monter dans sa voiture. Évidemment, une fois dans sa voiture, il a enlevé sa barbe, il a enlevé sa canne, il a retiré sa canne, tout ça, et il a remporté ni plus ni moins la course, donc c'était sa troisième victoire consécutive à 40 ans. Alors bon, voilà, à 40 ans, c'était pas totalement incongru hein, à cette époque-là de remporter un Formule 1, mais déjà le paddock avait quand même baissé en âge après les années de Fangio, de Farina, de Fagioli, qui avaient tous été des vainqueurs à 40 ans passés, voire même 50 ans pour Fagioli. Et donc voilà, il avait des critiques sur son âge. Donc il remporte cette course-là et puis. Deux semaines plus tard, il va remporter ce que lui considère comme son chef-d'œuvre, c'est-à-dire le Nürburgring, mais le Nürburgring sous la pluie, en 66, et bah, cette victoire va quelque peu sceller sa troisième couronne mondiale. Et c'est intéressant parce que c'est la première et la seule couronne mondiale qui est remportée par un pilote au volant d'une de ses propres voitures. Voilà, Jack Brabham qui remporte là son troisième titre. Il faut savoir que ça ne sera pas sa dernière victoire, hein, puisqu'il gagnera sa dernière course en 1970, hein, imaginez. 1970 avec le Grand Prix d'Afrique du Sud, qui remportera donc forcément à l'âge de 43 ans. Voilà, Jack Brabham qui est mort en 2014 à l'âge de 88 ans. Et qui est bien sûr une légende du sport automobile, hein, un des grands pilotes de l'âge d'or du sport auto avec les Jim Clark, les Graham Hill. Il avait donc était à la tête de son écurie jusqu'en 71. À partir de 72, l'écurie Brabham continuera sous son nom, mais sous la direction d'un certain Bernie Ecclestone. Et elle permettra de porter à la victoire au titre de champion Nelson Piquet en 80 et 83, même si l'écurie en elle-même ne remportera plus le titre après la saison 67. Saison 67 où Brabham remporte le titre constructeur, mais aussi le titre pilote avec Denny Hulm. Voilà, messieurs.
Mais c'était quoi le chiffre 3 ? Chiffre 3, c'était quoi alors ?
Bah ben si, oh là là. Il arrive sur 3 jambes.
Oh là 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 là.
Eh oui, 2 plus 1, voilà. Ah, j'ai pas dit que c'était simple.
C'est cool. Hein.
C'est, ouais. Non, mais je trouvais l'anecdote sympa.
Intéressant, ouais, c'est marrant. Hein.
C'est, voilà. Allez messieurs, bah l'émission touche à sa fin cette fois. Les rappels habituels, le SAV, c'est sur iTunes. Sur les chaînes Beta et Gamma de Pod Radio, c'est sur PodCloud, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, @lesavf1, et vous pouvez retrouver tous nos comptes, les comptes des chroniqueurs, tout en bas de la page du site. On est sur YouTube, on est sur Stand F1 et sur ActuF1, on est sur PodWiki, on est forcément sur Pokémon Go, on est aussi toujours sur Le Bon Coin, et cette semaine, tenez-vous bien, nous vendons le siège baquet moulé de la saison 2011 de Formule 1 de Robert Kubica, comme neuf, hein, du coup, très peu servi. Comme Robert me l'a confirmé lui-même, c'est une première main. Je le conseille d'ailleurs aux détenteurs de Renault Velsatis, car apparemment, il s'adapte très bien au siège de cette superbe berline.
C'est nous.
Dernier point, je vous rappelle que le SAV recrute toujours, hein, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. L'article de recrutement est toujours disponible. Sur la page d'accueil du SAV, c'est celui qui est en dessous de la une. Rejoignez la famille du SAV. On vous accueillera avec plaisir, que ce soit pour le podcast ou pour l'écrit, si vous avez des choses à écrire. Messieurs, la semaine prochaine se terminera le marathon. Enfin, ce week-end d'ailleurs se terminera le marathon du mois de juillet avec Hockenheim, évidemment, avant la trêve estivale. Là, eh ben, vous retrouverez nos rubriques habituelles, la preview, tous nos articles autour des essais libres, des qualifications et de la course, et bien sûr, nos deux podcasts habituels dont vous aurez les horaires dans la preview, ou alors on vous en avertira de toute façon sur les réseaux sociaux. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr.
SAVF1.fr.
SAVF1.fr.
Parce que le SA de la F1, c'est...
Pokémon E, la famille.
C'est son drapeau jaune.
Double drapeau jaune.
C'est souvent du n'importe quoi, mais c'est pas géré par des commissaires.
Et c'est, voilà, c'est ça.
C'est du n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui.
Allez messieurs, donc le SAV, c'est fini pour ce soir, mais surtout, restez branchés et restez unis. Salut.
Salut.
Bonsoir.
Salut.